Micro-ondes.
Une émission qui vous tient à contre-courant.
Tous les premiers dimanches du mois.
On vous parle de sujets brûlants.
Mais c'est pas de réchauffer.
Une émission qui s'attaque au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales. À l'intérieur, pas de la lutte, que de la lutte.
De midi à 14h.
Sur News FM 101.2.
Le mieux à faire, ce serait d'ouvrir toutes ces frontières, d'enlever toutes ces barrières. Ils ne gaspillent pas leur énergie, leur argent pour dire on va se faire encore des lois, on va faire des murs. Ils se disent qu'on va être envahi, il faut trier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça ne sert à rien.
Bonjour.
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 Oui, on est assez nombreux dans le studio pour cette émission donc de micro-ondes sur News FM. Une émission, comme ça a été dit à l'instant, contre le racisme, les frontières et les injustices sociales. Alors contre, mais on est aussi pour une belle année, 2016 quand
bah
même.
Oui, bonne année.
Voilà, bonne année à toutes. Et bonne année fraternelle. Donc on a eu l'initiative, c'est notre troisième émission, qui a lieu donc, comme c'était dit également, mais je le répète, tous les premiers dimanches du mois à midi. On a eu l'initiative de faire cette émission pour essayer de vous donner une information sur ce qu'on ne trouve pas forcément dans les grands médias, et en particulier en donnant la parole à ceux qui subissent et à ceux et à leur soutien. Donc aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du plan hivernal et surtout de l'hébergement. Alors il faut rappeler quand même que l'hébergement hivernal, c'est une obligation de l'État, hein, de loger tous ceux qui sont à la rue. Ça, c'est une obligation qui est malheureusement pas respectée, et surtout dans l'Isère, qui est vraiment en tête dans le comment dire,
le manque de place.
Le manque de place, oui. Disons qu'on est très loin de faire face aux besoins. Et deuxièmement, dans la deuxième partie de l'émission, il y aura un travail qui a été fait par un collectif qui s'appelle
Confrontières.
Et qui va vous parler de la gestion par l'Europe de ses frontières. Et d'où la petite interview que vous avez entendue tout à l'heure, qui émane d'un demandeur d'asile et qui finit par dire tout ce que vous essayez contre nous, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, vous pourrez à tout moment réagir sur tout ce qui peut être dit en téléphonant au 04 56 14 23 54, 04 56 14 23 54, ou également sur Facebook, Micro-ondes News FM, tout attaché, Micro-ondes au pluriel, voilà. Mais d'abord, alors, nous allons passer tout de suite à l'hébergement avec deux invités qui sont quand même bien placés dans leur vie pour vous en parler.
Ah, oui, bonjour. Du coup, moi, j'ai avec moi Sorina et Basile et Roberto, hein, leur fils de 6 ans qui est là. Bonjour Roberto. Et bonjour. Et Delia qui n'a pas pu venir, hein, qui est la petite dernière qui a 1 an. Et bonjour.
Bonjour, je suis Sorina.
Je suis Basile, bonjour à tout le monde.
Ben, merci déjà d'être là. Alors, en plus, surtout dans un contexte qui est compliqué pour vous en ce moment, parce que vous logiez jusqu'à mardi dernier sur le campement à côté de la MC2, campement qui a malheureusement brûlé oui. Mardi 29, ouais. Oui. Et vous avez à peu près tout perdu, hein, vos affaires dedans. Il y a un tiers du campement qui a entièrement brûlé, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et donc depuis mardi dernier, c'est un petit peu la pagaille. C'était déjà un peu la galère dans le campement, mais là ça se complique pour vous. Et vous avez été relogé en urgence au gymnase Flaubert pendant quelques.
Nous sommes logés là-bas où il était très très froid.
Ouais.
À cause de ça, les enfants s'est grippé. Mm. Il y en a des fièvres. Nous avons pas de médicaments, rien de tout.
Ouais. Et vous avez été du coup logé combien de temps? 2 jours au gymnase?
Au gymnase, 3 jours.
3 jours.
3 jours.
Et ensuite, il y a eu une prise en charge
hôtel.
En hôtel, oui.
En hôtel, que c'est là même, c'est froid, il n'y a pas de chauffage. C'est très très difficile pour nous. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de manger. pour deux enfants. Mais demain, ça commence l'école et moi, rien pour mon fils. Que ouais. Je ne peux pas l'amener à l'école comme ça.
Oui, c'est sûr. Et du coup, en fait, il y a à peu près 20 personnes du campement qui ont été logées en hôtel via les financements de l'État. Oui. Et eux, ils sont logés pour 3 jours seulement.
Oui.
Oui. Pour vous, vous êtes logés via les financements du CCAS de Grenoble à peu près. C'est combien de temps vous
15 jours.
15 jours. Et pour après, qu'est-ce qu'on
après,
vous annonce?
On ne sait pas.
Vous ne savez pas.
Oui.
C'est difficile pour nous, madame. Pourquoi c'est une chambre, petite chambre, avec les toilettes
dedans?
Dedans. Et c'est très, très difficile.
Nous sommes ici de plus de 12 ans. En tout ce temps, nous cherchons du travail, un hébergement social. Et personne n'est pas aidé. Parce qu'avant, tu n'as pas le droit de travailler ici. Et maintenant, nous avons le droit de travail, mais n'est pas trouvé. Nous sommes inscrits à Pôle emploi de plus d'un an, mais il n'y a aucune réponse. Il n'y a rien.
Et vous avez eu le droit, parce qu'au bout de 12 ans en France, quand même, vous avez eu le droit du travail depuis combien de temps?
Depuis un an.
Un an seulement, oui. Sur 12 ans de présence en France. Ah, oui.
De 2015, nous avons le droit. C'est difficile quand je trouve un employeur et quand je lui dis que je suis roumaine. Mais disait ah non, c'est pas possible. Ce sont beaucoup de personnes que c'est, je m'excuse de dire ça, c'est un raciste. Quand écoute que nous sommes roumaines, c'est pas possible. Nous sommes une famille que nous sommes ici de 12 ans. Je parle bien français, je sais écrire français, je sais lire français. Et nous voulons un futur pour nous les enfants. Nous voulons un travail.
C'est tout le monde qui s'occupe des Roumains, c'est un raciste. Si moi, parti pour chercher de travailler de quelque chose, t'aider à rien, tout le monde.
En fait, j'ai une assistance sociale qui m'aide avec une aide financière pour les enfants, mais dans chaque mois 250 euros
pour tous les
enfants. Pour tous les enfants, des 12 adultes.
D'accord.
Et maintenant, quand je vais aller, je demande mon droit ici. Je lui disais, madame, s'il vous plaît, je voulais savoir mon droit ici en France. Me dit, vous avez droit de rien ici, rien. Juste mettre les enfants à l'école, c'est tout.
Pourquoi? C'est faux, puisque vous avez le droit de travailler. Vous avez le droit.
Me disait, non, allez la rue chercher, comme ça. Et moi, quand je lui expliquais tout ça, mais couper les argent des enfants, dit, maintenant, il n'y a rien. C'est des jours que j'ai pas de manger pour moi et pour les enfants. C'est des jours que nous dormir comme ça sans manger.
Un avocat me gardait comment dormir la caravane, un camp, et me dit pourquoi non aller à l'assistance sociale pour te donner de maison, de travailler, de tout ça, que tu vous y en a beaucoup droit ici. Et moi, elle dit oui, moi, parti demain pour lui dire tout ça. Et quand parti, elle dit la.
Madame Jessica Lardilière s'appelle.
Elle dit tout ça, m'a dit dégage d'ici. Moi, d'aujourd'hui, c'est pas ton assistance sociale.
Oui, parce que vous aviez à un moment donné trouvé un travail, à un moment, on vous a fait une promesse d'embauche dans la plomberie, non?
Oui, enfin, mon mari s'est trouvé ça.
Oui.
Quand il arrivait à la préfecture pour poser des dossiers.
Bah, avec la promesse d'embauche, parce que là, l'employeur
voulait vous en. Oui, c'est ça. Et me disait, ah, c'est pas possible, vous êtes roumaine. Les Romains, il n'y a pas beaucoup de droits ici.
Oui. Juste une petite question. Du coup, la dernière émission, on parlait justement de la suppression de l'aide d'urgence du Conseil général. Est-ce que vous aviez cette aide d'urgence, du coup, à un certain montant? Et est-ce qu'elle a vraiment été supprimée? Quelle est la conséquence?
Avant, oui, j'avais cette aide d'urgence. Et maintenant, ma assistance sociale m'est coupée.
Ouais.
Et ça représentait combien d'euros par famille?
250 euros par toutes les familles.
Oui, pour quatre.
Pour quatre personnes.
C'est ça, je crois qu'on reviendra aussi dessus.
On reviendra en deuxième partie, on va revenir dessus, parce qu'on a aussi interrogé un assistant social, et on ne sait pas, normalement, il est annoncé qu'elle va être supprimée, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer derrière.
D'accord.
En fait,
Et en fait, je voulais signaler ça, pour les Roumains, c'est très difficile de vivre dans son camp, parce que ça arrive tout le temps des risques, des incendies.
Incendie, oui.
Parce qu'on a beaucoup les enfants qui ne peuvent pas rester dans une baraque, sortir dehors, allumer les. C'est pas possible de vivre comme ça. Je nous voulais les dire, s'il vous plaît, allez, personne qui s'occupe des Roumains, conseil général ou je ne sais pas qui, s'occupe des Roumains et aide pour une maison, une place de travail ou quelque chose pour nous. Nous voulons nous intégrer ici en France. Nous voulons travailler, je voulais un futur pour les enfants.
Oui, vous, c'est, en plus, ça fait 12 ans pour votre mari, 8 ans que vous êtes ici. On ne peut pas parler de si vous êtes intégré ou pas. Vous êtes ici, c'est tout.
Je voulais arrêter la Roumanie. Je voulais quitter la Roumanie. Je voulais vivre ici, en France.
Pour quelle raison? Pourquoi vous avez voulu quitter la Roumanie?
Nous quitter la Roumanie parce que la Roumanie, un salaire pour un mois, c'est 150 euros. La Roumanie, c'est très, très dur, très, très difficile pour nous, pour les Roumains. À cause de ça, nous partir. Une allocation pour les enfants, c'est 10 euros. En Roumanie.
Par mois.
Par mois, oui.
Et justement, du coup, vous disiez que la vie dans le campement était trop dure. Pour autant, j'ai entendu que des personnes souhaitaient revenir au campement de Flaubert parce que justement, il n'y avait pas d'autres solutions qui étaient proposées et qu'aujourd'hui, on leur empêchait de se réinstaller dans le campement. Est-ce que vous confirmez? Enfin, est-ce que c'est la
vérité? Oui, c'est vrai. Ce sont beaucoup de personnes qui voulaient retourner là-bas. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Oui, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de personnes qui vont être logées que 3 nuits à l'hôtel et après, il n'y a plus rien.
Oui, pour ça. Alors, si les Français nous donnent un appartement, je suis sûre que l'humain ne va pas refuser.
Oui, bien sûr.
Ou quelque chose.
Oui, mais en fait, là, en plus, d'après ce que j'ai compris, le campement, il y a un tiers seulement du campement qui a brûlé.
Oui.
Les deux tiers est resté intact et on vous a interdit d'aller récupérer les affaires qui n'étaient pas brûlées.
Oui.
Ouais. Et ça, on vous a expliqué pourquoi? Qu'est-ce qui...
Non, c'est de sécurité là-bas qui ne laisse pas
d'entrer. Beaucoup de police.
Beaucoup de police,
oui.
Alors, vous parliez du rapport à la police que vous aviez, vous m'en parliez hors micro tout à l'heure, vas-y.
Oui.
Mais je ne sais pas...
Quand t'es coupé les...
Par rapport à la police, vous...
Un fois.
Hors micro, vous disiez que c'était compliqué le...
Oui, un fois, un Roumain l'a tapé à mon mari.
Ouais.
Et nous appelait la police arrivait, il regardait comme mon mari était en train de taper. Il m'a dit, si, monsieur, s'il vous plaît, fais quelque chose, regarde comme il tape à mon mari. Me disait, c'est une personne morte. Il m'a dit, non. Et quand un Roumain est mort, tu m'appelles. Si ce n'est pas mort, ne m'appelle pas parce que je n'ai rien à faire ici.
Ah oui, donc vous vous sentiez aussi en insécurité, notamment face à la police, quoi.
Oui.
Et du coup, par rapport à ça, vous aviez aussi des messages à passer, à passer au maire, à la France. Vous aviez envie de dire des choses.
Mon mari voulait passer un message à Monsieur Présidente.
Voilà. Ah oui.
Bonjour Monsieur Présidente. Moi, je te dis s'il vous plaît, dis-le à toutes les personnes qui s'occupent des Roumains et des Israéliens pour nous aider, pour nous donner quelque chose de travailler et quelque chose de dormir.
Ok.
Merci.
Merci. Merci en tout cas à tous les deux. N'hésitez pas, vous allez être présents tout au long de l'émission. Si à un moment donné vous avez envie de réintervenir, vous pourrez. On sera de la place autour des micros parce qu'en fait il y a du monde ici. Merci beaucoup. Et maintenant on va écouter. Qu'est-ce qu'on va écouter déjà?
Tizi Ouzou, du coup, par Idir, une reprise de La Maison Bleue de Maxime Le Forestier.
Voilà, à plus tard Roberto, merci Vasile,
merci beaucoup.
Et peut-être on vous réinvitera.
Ah bah oui, sans doute, oui, puisque la fois prochaine il y aura certainement une émission.
Parce que nous avons beaucoup d'expliquer, beaucoup de parler.
Oui, vous avez beaucoup de choses à nous dire, oui. Merci en tout cas d'être venu.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Pour rebondir, pour poser des questions à nos invités et à tout le monde, au 04 56 14 23 54 et sur le Facebook Micro-ondes News FM. On vous laisse avec Tizi Ouzou.
Ceux qui vivent là ont jeté la plaie.
Ce morceau, en fait, c'est un morceau qui a été choisi le mois dernier et qu'on n'avait pas pu passer parce qu'on avait interviewé une personne qui avait été hébergée dans l'urgence, dans le dispositif d'urgence et qui est régulièrement à la rue et qui nous avait demandé de passer ce morceau. On la remercie. Tout de suite, en deuxième sujet de l'émission, on va parler du plan hivernal. Du plan hivernal, justement, qui est un dispositif d'urgence, mais spécifique à l'hiver, en fait, qui commence du 31 octobre au 31 mars, et qui vient s'ajouter au dispositif d'urgence. L'idée, c'est d'apporter une aide supplémentaire juste en hiver. Donc, le plan hivernal est composé en général de trois volets. Le premier volet, c'est la trêve hivernale, ce qu'on appelle la trêve hivernale, qui interdit toutes les expulsions de locataires, même en cas de procédure judiciaire. Le deuxième volet, en fait, d'un plan hivernal, c'est l'augmentation des maraudes. Les maraudes, c'est les tournées qu'on fait la nuit pour aller voir les personnes sans abri qui dorment à la rue et s'assurer de leur bonne santé, si on peut dire ça. En fait, on leur apporte parfois des soupes, des couvertures. Voilà. À Grenoble, c'est fait notamment par Vinci Codex, c'est fait par les SAMU sociales, le pompier ou les pompiers ou la Croix-Rouge. Et puis, le troisième volet qui va être un petit peu plus l'objet de ce sujet qu'on va traiter aujourd'hui, qui est le déploiement en fait de moyens supplémentaires pour l'hébergement d'urgence. Alors à Grenoble et Grenoble Agglo, on vous a dit le plan hivernal, c'est seulement 300 places supplémentaires pour l'hiver, Grenoble Agglo, donc pour à peu près 1900 personnes à la rue. Donc
ça va être d'ailleurs une des pires années que on a pu connaître sur l'agglomération. Et ça, c'est vraiment une spécificité iséroise, hein, d'être toujours en décalage par rapport aux besoins. On est un des pires départements comme ça, quels que soient les préfets qui se succèdent.
Oui, et du coup, Jeanne et Baptiste ont fait un reportage sur le sujet. Je passe la parole à Jeanne, du coup.
Oui, donc effectivement, ce que révèle principalement ce plan hivernal, c'est un manque crucial d'hébergement, puisque, comme vous venez de dire tous les deux, alors qu'on estime à environ 1900 le nombre de personnes à la rue sur l'agglomération grenobloise, seulement 300 places d'hébergement sont ouvertes cette année. Il y a donc une forme de manipulation médiatique et politique derrière ce plan hivernal, qui veut nous faire croire que des choses sont mises en place, alors que au moins 1600 personnes donc vont rester à la rue. Il y a un manque de logement, mais il y a également un manque de logement adapté. Un logement adapté, ce serait un logement qui ne ferme pas fin mars et qui laisserait aux personnes une continuité pour se construire. Un logement adapté, ce serait un lieu qui ne serait pas situé loin de tous les transports en commun, comme à Pont-de-Claix. Enfin, un logement adapté, ce serait un endroit où on aurait le droit d'inviter des personnes chez soi sans subir les intimidations ou les interdictions de témoigner, comme nous avons pu le constater quand on a voulu rencontrer des personnes dans le centre d'hébergement de Domaine. Pour continuer sur le plan hivernal et ses questions, on vous propose donc un reportage réalisé notamment pendant le rassemblement du 12 novembre dernier, qui a eu lieu lors de l'annonce du plan hivernal par la préfecture l'Isère. Vous entendrez des témoignages de personnes à la rue et des personnes les soutenant dans leur lutte pour un accès digne au logement.
Depuis 2005-2006 que j'étais dans la rue, et donc j'ai toujours un pied à l'intérieur et toujours un pied à l'extérieur. Mon appartement, mais je vois toujours mes potes et tout.
Là, je suis dans un squat, voilà, parce que ça permet, malgré le froid, etc., d'être au moins à l'abri de la pluie et de pouvoir laisser mon animal tranquille un peu la journée, pas qu'il court derrière moi. enfin qui s'épuise et qui s'épuise jusqu'à. Enfin moi j'ai peur qu'il me lâche quoi, le petit moteur.
On peut pas s'en sortir en étant dans la rue. La rue ça va un moment, mais des années on peut pas. C'est pas possible. On peut pas avoir un boulot en étant dans la rue.
C'est rude d'être dehors, ça c'est la pire des choses. C'est rude, c'est bien d'avoir un abri, mais que pour la nuit, c'est rude aussi de se retrouver dehors dès le matin jusqu'au soir, quoi. Tu dois sortir généralement, enfin pour quasi toutes les structures d'accueil, là c'est entre 8 et 9 heures. Mais d'être obligé de courir toute la journée, d'accueil en accueil, de pas pouvoir poser ses affaires tranquillement. Et se poser un peu la journée, le week-end, le dimanche, t'as ceux du matin, mais quand il fait froid, que t'es sous la pluie, que si t'arrives à te poser dans un café, au bout d'un moment, on te regarde, on te fait comprendre que tu peux pas rester, tu peux pas te poser la journée, tu peux pas te reposer, parce que, la nuit, t'arrives pas à faire des nuits complètes non plus, même avec un hébergement provisoire, justement, t'es tracassé par comment tu vas te dépatouiller de tout ça. Enfin, moi, je sais que... je crois pas qu'il y ait beaucoup de monde, même avec un toit sur la tête en hébergement d'urgence, qui dort de manière, tu vois, qui récupère bien, quoi. Peut-être ceux qui s'assoient à l'alcool, mais encore, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit un bon sommeil récupérateur qui te permette de réenclencher... une journée dans de bonnes conditions. Il y a des structures où tu emmènes tout parce que tu es là que pour 3 nuits. Enfin, 3 nuits. 1, 2 ou 3 nuits. Et il y a des structures où tu peux laisser des affaires. J'en ai casé de droite, de gauche. Je sais pas si je vais retrouver... ne serait-ce que pour les papiers. J'ai des papiers de droite, de gauche. Comme je peux pas tout trimballer, la paperasserie justement, là ça fait la troisième fois qu'on me renvoie un dossier en me redemandant les mêmes pièces ou en me demandant de nouvelles pièces qui n'étaient pas demandées au départ. J'essaie de récupérer ce qu'il faut quand je vais voir les travailleurs sociaux qui m'aident à faire ces dossiers, ces paperasses. Des fois, je me retrouve en me disant, bah mince, j'ai pas pu aller récupérer tel papier que j'ai laissé chez un tel ou dans tel squat ou dans tel endroit. Parce que la personne n'est pas là, parce que, je sais pas, parce que c'est compliqué de courir la ville d'un bout à l'autre tout le temps ou d'avoir un coin pour avoir toutes ces affaires rassemblées.
Des fois dans la rue, c'est plus difficile qu'un homme. Et ouais, bah ça va qu'on a de local des femmes en prenant. Mais ça n'existe pas de partout. Dans les autres villes, ça n'existe pas. Voilà, dans la rue, c'est plus difficile pour une femme. Et les femmes, on les voit moins dans la rue que les hommes. Elles se cachent, elles ont peur de la violence des hommes.
Local des femmes, quand tu vois des femmes qui ont des enfants qui avant l'hébergement d'urgence dormaient dehors, enfin faisaient dormir leurs enfants, essayaient de trouver des coins n'importe où, démonter l'escalier, et elles venaient dormir au local parce que elles pouvaient pas dormir tranquille la nuit et surveiller avec les enfants et tout. Voilà, il y a nombre de gens qui restent encore dehors, c'est affolant quoi, nombre de femmes surtout. T'as pas de coin privé dans ta cabane, tu peux pas fermer à clé ta cabane, donc des fois il déboule comme ça. T'es une nana, enfin après avec des allusions un peu parfois malsaines d'autres personnes. En tout cas c'est ce qui me fait craindre de rentrer dans ce genre de structure là d'accueil, je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui étaient justement hébergés sur des grosses structures, des gros foyers, et où eux disaient que c'était plus des surveillants que des éducateurs ou des gens qui les aident dans leur démarche, quoi. Ils se sentaient pas accompagnés, avec des règlements imposés qui pouvaient aussi varier selon l'un ou l'autre. Ni accompagnés, ni encadrés. Pas dans un endroit sécurisant, en tout cas. Là, je pense à quelqu'un qui était comme, enfin, qui se sentait comme dans une jungle avec des anciens, qui avait des accords avec les, enfin, ça faisait penser à ce qu'on entend de la prison, en fait. Des grosses structures avec 20 personnes par étage et la loi du plus fort ou du plus tordu, quoi. Et pas de régulation ou, enfin, des éducateurs, mais qui restent dans leur bureau au rez-de-chaussée et qui regardent juste qui rentre et qui sort et pas plus. Ça a été une période un peu en mars-avril, là, où à la débrouille, ouais. et toujours un peu le nez au ventre, quoi, la peur au ventre aussi, quand les montées d'escalier, quand les gens te voient sur le palier dormir, moi j'ai eu la chance de pas être tombé sur des gens qui m'ont éjecté, qui m'ont dit bon, rester tranquille, mais bon, on retombe pas trop de nuit de suite, quoi. On a toujours peur. Une fois qu'on est repéré, en plus, voilà, que ça fasse scandale, qu'il y ait des gens qui viennent nous jeter dehors dans la nuit, ou on sait pas quoi, ou qui appellent les autorités.
Secteur institutionnel, vous êtes les responsables de la pénurie des places d'hébergement et de logements adaptés aux réalités de celles et ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, le nombre de personnes à la rue en Isère est estimé à 1900 pour cet hiver 2015 et seulement 300 places d'hébergement environ seraient prévues dans le cadre du plan hivernal, les places en structure hôtelière étant privilégiées.
Du coup, on a organisé cette journée parce que c'est aujourd'hui que la préfecture vient présenter son plan d'hébergement hivernal pour la trêve hivernale. Et on s'est rassemblés ici notamment pour dire que 300 places pour 1900 personnes à la rue, c'est largement insuffisant. Et pour appeler un certain nombre de collectifs, d'associations et d'organisations à venir manifester leur colère concernant les conditions d'accueil qui sont faites aux personnes hébergées, concernant la violence des expulsions qui ont lieu dans l'agglomération depuis plusieurs mois, concernant le prix du loyer qui est beaucoup trop cher et qui fabrique en fait des personnes à la rue.
Entre 60-70% des demandeurs de logements sociaux aujourd'hui n'ont pas les revenus pour accéder au logement. Y compris, il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent même pas accéder aux logements très sociaux au niveau de leurs revenus. Donc on est dans une situation dramatique. Les expulsions se sont accélérées avant le début de la trêve d'hiver. Et là, la trêve d'hiver a commencé le 1er novembre. Et on s'aperçoit que malgré la trêve d'hiver, eh bien, on continue à procéder à des pressions, à des expulsions. On met les gens dehors. Donc avec des interlocuteurs politiques qui disent ne pas avoir trop d'état d'âme à laisser les gens à la rue. Et on est dans une agglomération et dans un département où il y a énormément de bâtiments, d'appartements, de maisons, de terrains qui appartiennent aux institutions publiques, que ce soit l'État ou que ce soit les collectivités territoriales, et qui sont vides. Voilà. Donc, vu les budgets qui sont alloués pour l'hébergement, nous on estime qu'à un moment donné, ce budget, plutôt que de dire on va mettre 300 chambres parce qu'on n'a pas de sous, de dire eh ben, il faut absolument que tous ces bâtiments soient viabilisés et mis à disposition des personnes qui en ont besoin.
Il est insupportable de constater qu'en Isère, de nombreux logements et bâtiments sont vides et ou à l'abandon et que des opérations immobilières sortent de terre, cela sans aucune considération des besoins réels des plus modestes d'entre nous. Nous exigeons donc pour toutes les personnes concernées l'ouverture immédiate de places d'hébergement pour l'accueil de toute personne sans toit, la réquisition et la mise à disposition des appartements, maisons et bâtiments vides, ainsi que la mise en place d'un budget dédié à leur viabilisation en vue d'une pérennisation des places d'hébergement. Que soient stoppées les expulsions, les pratiques de traque, de maltraitance, pression aux personnes hébergées. L'arrêt immédiat de la mise en concurrence des pauvres entre eux. Le respect des lois régissant l'inconditionnalité de l'accueil dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Nous, on est aussi là pour dénoncer la folie de ce système de gestion au thermomètre de l'hébergement, en particulier sur l'aspect de l'hébergement où on met en place un nombre, déjà des lieux largement insuffisants par rapport à la demande, des lieux qui sont souvent indignes à la limite de la mise à l'abri. Au collectif Mort de Rue, par exemple, on essaye de vraiment interpeller sur cette question qu'on meurt autant l'été que l'hiver de la rue, des conséquences de la vie à la rue ou dans la rue. Il y a eu 480 morts au moins en 2014 au niveau national. Et des gens meurent à Grenoble aussi de cette folie d'un système qui gère au thermomètre les nécessités des gens d'avoir un toit.
Des personnes SDF ont moins de 25 ans. C'est dire que et c'est pas seulement les enfants roms. Il y a les enfants roms dans les 25%, mais il y a toutes les personnes qui n'accèdent pas au logement aujourd'hui du fait du manque d'emploi, du manque de revenus, etc. Donc, c'est pas acceptable. On peut pas le laisser. Moi, je suis vieille. Je veux pas laisser comme ça un pays où toute une population ne pourra plus accéder au logement.
Comme d'habitude, les policiers ont été relativement violents. Des banderoles qui ont été arrachées par deux policiers alors qu'on était en train de les enlever. Et maintenant, du coup, il y a un face-à-face qui se prolonge avec nous qui chantons des slogans et les policiers qui sont face au truc. Donc ça montre bien en fait que la question de l'hébergement et du logement sont des sujets vraiment cruciaux pour l'État et pour les collectivités locales, parce que dès qu'il y a le moindre petit... mouvement de contestation, il est immédiatement réprimé, on nous empêche de nous rassembler pour exprimer notre solidarité en fait. Voilà, enfin, c'est de la provocation et j'ai l'impression que ça va continuer comme ça pour un bout de temps tant que les problèmes n'auront pas été résolus en fait.
Les CRS, ils bousculent les gens de la rue et ça c'est pas normal. On peut pas revendiquer tranquillement, mais tout le temps, ils font tout le temps comme ça. Dès qu'il y a une manif, ils envoient la police. Pourquoi le préfet ne vient pas sur place parler avec nous, là? On veut parler au préfet, nous. Ah ouais, non, mais ça craint.
News du
Vous êtes bien sur News FM, toujours, l'émission micro-ondes que on programme tous les premiers dimanches de chaque mois à midi, c'est-à-dire que la prochaine fois ce sera le 7 février à midi, on vous attend également, donc vous pouvez nous écouter comme vous le faites peut-être maintenant, soit sur la bande FM sur 101.2, soit si vous êtes un petit peu loin de Grenoble sur Internet, donc vous faites News FM, Radio News FM et vous cherchez micro-ondes. Et vous pouvez également, ça vous a plu, la faire écouter à vos copains 15 jours après l'émission en direct sur le podcast. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez intervenir vous également en pleine émission sur le 04 56 14 23 54 ou également sur Facebook, donc sur micro-ondes de Radio News FM. Et tout de suite, on va donc continuer sur le sujet de l'hébergement d'urgence, comme vous avez pu le constater, catastrophique sur Grenoble en ce qui concerne les solutions proposées par les pouvoirs publics.
Oui, alors du coup, on est allé rencontrer Vivien, qui est assistant social dans une structure d'accompagnement vers l'hébergement de personnes à la rue. C'est une structure d'insertion par l'hébergement. Et il va nous parler, en fait, des dispositifs d'urgence de manière générale et un petit point sur le plan hivernal. Et on reparlera ensuite de la situation avec lui sur un sujet plus large. Alors, tout de suite, l'interview de Vivien.
fait, dans les familles qu'on accompagne, il y a des familles qui sont dehors. On commence à les accompagner, elles sont à la rue. Et ensuite, on essaie de voir comment elles peuvent accéder à un hébergement. Et donc, pour un grand nombre, l'accès à l'hébergement d'urgence, il est hyper limité. Ce qu'on constate, c'est que les familles de droit commun, c'est-à-dire françaises ou avec une régularité de séjour, des ressources, donc une possibilité de s'insérer par l'emploi, accèdent beaucoup plus rapidement à l'hébergement d'urgence que toutes les autres. C'est pas la condition de précarité et de vulnérabilité qui fait la raison pour laquelle on va accéder à l'urgence, c'est plus est-ce qu'on est droit commun ou pas, est-ce qu'on a possibilité de s'insérer ou pas. Aujourd'hui, les critères pour accéder à l'urgence quand on n'est pas de droit commun, qu'on n'a pas la possibilité de s'insérer, c'est avoir des enfants de moins d'un an et qu'il n'y ait qu'une personne dans les parents. C'est-à-dire que ce soit une famille monoparentale avec un enfant de moins d'un an. Là, cette année, c'était encore pire, les critères. Le plan hivernal, il rencontre des mêmes critères que de l'urgence, sauf qu'il ouvre un peu plus de possibilités. Les personnes qu'on accompagne, elles sont concernées par le plan hivernal et la plupart, elles n'ont pas de ressources. Des familles que j'accompagne qui sont passées par les campements Esmona, qui sont fait virer d'Esmona, qui sont passées dans d'autres squats, qui sont fait revirer par la ville, ont pu accéder à l'hébergement d'urgence. Elles n'ont pas réussi à s'insérer plus loin que l'hivernal, avec toujours des contrats qui ont une fin proche et qui sont renouvelés au dernier moment. Par exemple, il y a une famille, la dernière fin d'hébergement, c'était au 25 décembre. Donc par exemple, c'est un peu bizarre quand même d'avoir une fin d'hébergement au 25 décembre et le 15 décembre de ne pas savoir si ça va être renouvelé. Donc c'est aussi un climat dans lequel elle se trouve, d'inquiétude et d'impossibilité de se projeter. Et les associations elles-mêmes ne savent pas vraiment quoi répondre parce qu'elles attendent d'avoir les consignes de l'État, à savoir est-ce qu'elles vont avoir les crédits pour prolonger l'hébergement. Il y a un gros non-recours vis-à-vis du 115 aussi. Mmh. Les familles, nous, on les encourage beaucoup à faire le 115, mais elles nous disent toutes qu'elles sont découragées parce que ça sert à rien.
Oui, alors là, en plus, témoignage de Vivien, merci. Il nous parle en plus de familles qui sont prises en charge et accompagnées. On pense à toutes les familles qui n'ont pas pu obtenir d'hébergement, même pas d'hébergement d'urgence, parce que et en plus, ce qu'il nous raconte, c'est que l'hébergement d'urgence dépasse rarement l'hivernal. On souhaiterait qu'après un hivernal, quand on arrive au 31 mars, ce soit un accès au logement et que les gens se maintiennent dans des situations beaucoup plus confortables et pérennes. Or, cet accès au logement reste pour un très grand nombre de gens un mythe.
En mars dernier, les obligations légales, d'ailleurs.
Malgré les obligations légales, bien sûr, quoi. Et en fait, en mars dernier, suite à une mobilisation de militants, d'associations et grâce notamment à l'intervention de la FNARS au niveau national, l'État avait
Fédération nationale des associations d'hébergement.
Voilà, qui est une structure d'hébergement.
C'est même une fédération.
Fédération d'hébergement, voilà. Ouais. La FNARS avait demandé, parce qu'il y avait énormément de gens qui allaient se retrouver au 31 mars à la rue, et c'était catastrophique. C'est aussi le résultat d'un dispositif hivernal. Du coup, la FNARS avait demandé à l'État une rallonge. Face à l'ampleur de la situation, l'État avait accordé une rallonge qui s'était traduite par à peu près 200 places prolongées de l'hivernal à Grenoble Aglo, et il se trouve que les personnes dont parle Vivien dans le reportage tout à l'heure, c'est des personnes qui ont été prolongées grâce suite à ça et qui sont, on le voit en fait, maintenues dans l'hivernal et maintenues dans l'urgence, dans la précarité de l'urgence.
Et puisque tu parles de cette rallonge, ce qui est quand même très curieux, c'est que ce soit la FNARS qui ait besoin de demander cette rallonge alors que les services préfectoraux de l'Isère ne s'en étaient même pas donné la peine. Ils avaient demandé 80 places pour un besoin qui est à peu près 10 fois celui-là, quoi.
Eh oui. C'est toujours suite à des mobilisations qu'on obtient des choses.
Non, d'autant qu'en plus, si la rallonge a été obtenue du coup au printemps 2014, au printemps 2015, rien ne nous dit que ça va continuer à partir de mars 2016. Enfin, peut-être qu'ils vont être remis à la rue au printemps prochain, non ?
Ah ben justement, pour l'instant, tous ces gens qui ont été prolongés ont des dates qui terminaient fin décembre. Ils n'ont toujours pas d'informations sur ce qui va se passer après. Il y a de grandes chances qu'ils soient remis à la rue. En tout cas, ce qu'il y a de commun, c'est qu'à chaque fois, personne n'est au courant. Ni les travailleurs sociaux, ni les premiers concernés, en fait. Donc, et ça se rajoute, les gens qui sont en hivernal aujourd'hui, qui vont être remis à la rue, encore une fois, en mars prochain. Et c'est là où on voit en fait l'absurdité de penser un système par rapport à l'hivernal. On est à la rue toute l'année. On n'est pas à la rue uniquement en hiver, en fait. On meurt dans la rue toute l'année. Mais ces dispositifs hivernaux, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenir les personnes dans l'insécurité de l'avenir. Ils vont opérer des tris, parce qu'au fur et à mesure, dans ces choses un peu floues, où personne ne sait, où on a des informations au compte-gouttes, qu'est-ce qui s'opère? Au final, des tris. Il y a des personnes, des familles entières qui vont être remises à la rue, qui vont disparaître de la circulation. On n'en entendra plus parler. Il y a d'autres personnes qui vont avoir eu un travailleur social qui les aura pris un peu plus en considération, et qui vont être maintenus dans de l'hébergement ou de l'urgence, ou peut-être, exception rare, accéder au logement. Mais en tout cas, pour la majorité, ils sont maintenus dans la précarité, et on détruit toute tentative de stabilisation d'une situation. On ne parle même pas de construire un avenir, en fait, pour tous ces gens-là. Et c'est peut-être ça qui est recherché, au final. C'est de dissuader des gens à avoir envie de s'installer. Et c'est ainsi qu'on retrouve parfois des familles qui intègrent chaque année le dispositif hivernal pour être remis à la rue au printemps. En général, ils peuvent avoir, je ne sais pas moi, 3 nuits d'hôtel, 10 nuits d'hôtel, remis à la rue. Ils vont passer l'été à la rue, et puis on va les retrouver l'année suivante dans l'hivernal. Et de la même manière, on va avoir des familles qui, au regard du peu de places qui sont débloquées, parce que même l'hivernal, c'est que 300 places, hein, vont être, et au regard aussi de l'absence totale de réquisition de bâtiments vides, il va y avoir des centaines de personnes qui ne vont jamais quitter la rue, jamais quitter les bidonvilles, enfin, sauf quand ces bidonvilles-là, ils sont expulsés. Ouais.
Non, simplement pour dire que ça rejoint aussi ce qu'on entendait dans le premier montage où une personne de mort de rue nous disait justement qu'on meurt autant l'été que l'hiver, et simplement que c'est pour jouer sur le côté émotionnel en fait de l'hiver que des places d'hébergement hivernal sont mises, et que derrière on n'a pas de réelle continuité de l'hébergement et de,
ouais,
enfin, une réponse médiatique mais qui correspond pas aux besoins des personnes en fait.
Oui, et puis dans ce contexte-là, alors là du coup on a interrogé Vivien sur autre chose qui vient s'ajouter à tout ça, parce que ça suffit pas de bloquer les gens par rapport à de l'habitat. On a aussi, enfin par rapport à ne serait-ce qu'à l'urgence, on a interrogé Vivien notamment sur ce qu'on vous avait parlé à la dernière réunion, qui est la suppression de l'aide d'urgence du conseil départemental, parce que ça suffit pas de les mettre en galère par rapport à l'urgence. On rajoute une autre complexité, et là Vivien nous en parle. Les bénéficiaires de cette aide, tout comme les travailleurs sociaux, sont pas informés vraiment de ce qui va se passer en 2016, et Vivien nous a parlé tout à l'heure, enfin voilà, je vous laisse entendre ce que Vivien dit, et puis on réagit si on en a envie après.
Ce qui semble advenir, c'est que, a priori, il n'y aurait plus d'aide financière pour les familles, de façon à ce qu'elles puissent avoir des moyens de subsistance pour s'acheter de quoi manger. L'aide d'urgence délivrée par le département, elle est accordée aux familles. Un couple avec enfant ou une personne seule avec enfant peut y prétendre. En l'occurrence, pour les familles qu'on accompagne en grande précarité dont on parle là, elles sont sans ressources, ça vient pallier au minimum alimentaire. C'est un peu aléatoire en fonction de la situation de la famille. Pour une famille avec 3 enfants, 2 parents en hébergement, ça fait 230 € à peu près. Donc sachant que la famille n'a rien d'autre. Donc avec ces 230 €, elle va aller voir un peu les associations caritatives. Enfin, c'est ce qui s'est passé cette année 2015, par exemple. Le département souhaiterait, a priori, remplacer ces aides financières par une aide financière en direction des associations caritatives, de façon à ce que l'aide que donnent les associations caritatives soit réellement suffisante pour les familles. Seulement, les aides financières permettaient aussi, à des moments donnés, de prendre en charge des médicaments qui n'étaient pas remboursés, de payer des produits d'hygiène, de payer des choses qu'on ne peut pas prévenir, auxquelles les associations caritatives ne pourront pas pallier. Et par ailleurs, les associations caritatives caritative, on le sait, et le département le sait, parce qu'ils ont enquêté par rapport à ça, qu'aujourd'hui, ils fournissent pas suffisamment de nourriture pour que les familles puissent s'alimenter correctement, que la nourriture, elle n'est pas adaptée aux besoins des familles et qu'elle n'est pas suffisante. Ça veut dire que l'aide financière, elle sera supprimée, que les familles devront faire appel aux associations caritatives, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, elles ne sont pas prêtes à pallier à l'ensemble des besoins des familles. Donc concrètement, je ne sais pas comment les familles vont faire. Et nous, quand on aura les familles devant nous, on n'aura aucune réponse à leur apporter. Le fait de ne pas avoir les informations officielles font aussi que c'est compliqué de se mobiliser parce qu'on est sur du flou, quoi. Ils voient de plus en plus des familles qui vont dans les poubelles. Bah, je pense que ça va augmenter et qu'elles devront trouver d'autres recours. Donc après, chaque famille trouvera ses stratégies individuelles. Donc c'est compliqué d'imaginer, mais je pense que ça va être ça. Elles vont devoir se creuser la tête pour savoir comment survivre. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand une famille et des personnes y réfléchissent à comment survivre, ils réfléchissent plus à comment chercher un travail, ils réfléchissent plus à comment on va s'organiser pour mettre nos enfants à l'école. Il y a d'autres priorités qui viennent se mettre en place. Sachant que ces familles qui sont sans ressources, c'est vrai qu'on imagine souvent qu'elles veulent pas forcément s'insérer, mais ce qui est pas le cas, nous, les familles qu'on rencontre, c'est des familles qui veulent chercher un travail, mais seulement avec de grands freins qui peuvent être de parler bien français et qui peuvent être justement d'être dans des conditions d'existence qui sont tellement misérables qu'elles ne peuvent pas s'investir sur une insertion professionnelle ou sur l'apprentissage du français. C'est pas possible. Et ça, le fait que les aides financières disparaissent va faire que ça va renforcer cet aspect-là, quoi. En fait, le département, il assure la question de la protection de l'enfance. Oui. Il s'est retiré complètement de sa mission, c'est-à-dire qu'il considère qu'être à la rue avec des enfants en bas âge, bah ça relève pas de la protection de l'enfance. Un enfant n'est pas en danger. Or, ce qu'on voit, c'est que les enfants qui sont scolarisés et qui dorment dehors pendant des mois et des mois, et ben, ils sont discriminés par les autres élèves. Ils sont plus vulnérables au niveau de la santé, au niveau des conditions sanitaires dans lesquelles ils vivent. Donc en fait, il y a une claire inégalité d'éducation de fait. Et on peut penser que c'est pas des moyens suffisants pour un enfant pour s'épanouir et pour se développer. Donc à ce titre-là, pour moi, ça relève de la protection de l'enfance.
Eh oui, merci Vivien. Et du coup, je sais pas, Vasile, Sorina, vous avez envie de réagir à ce reportage, parce que je sais que vous devez quitter le plateau et que voilà, vous avez écouté attentivement ce reportage. Vous avez envie de réagir ou...
Non, je voulais dire juste à personne qui s'occupe de nous, des Roumains, pensez à nous, qui nous aider et pour nous changer la vie.
Pour vous changer la vie et changer la vie de tout le monde, parce que
à
ça changerait la vie de tout le
c'est
monde.
C'est ça.
Ouais. Merci, on sera content de vous réinviter bientôt d'ailleurs, hein, le mois prochain peut-être bien, si c'est possible.
Oui, nous venir avec plaisir.
Super. Au revoir Roberto.
Au revoir, bonne journée.
Au revoir, merci.
Au revoir, merci.
Et nous allons du coup écouter « Comment se faire confiance ?». Alors c'est un morceau qui a été écrit et interprété par Marie-Rose, Patrick, Yasmine, Baudouin et Mama Thérèse. C'est un groupe qui s'est constitué autour d'une structure qui s'appelle le Salto. Et ils ont des choses à dire, les premiers concernés ont des choses à dire. On aimerait bien d'ailleurs les inviter très bientôt dans une prochaine émission. Ils seront là aussi. Voilà, comment se faire confiance.
Quand j'avais une première rendez-vous avec mon assistant social, j'étais assuré parce que je savais que mes démarches administratives, ça va bien marcher. Côté préfecture ou d'hébergement, au contraire, il était contre moi. J'étais pas content de fuir la pluie à l'océan. Dommage, je suis pas chanceux. Malchance de tomber avec un assistant social, égoïste, raciste, malin envers moi. Il se montre gentil quand on se voit, mais après, il me laisse avancer comme un innocent dans les couloirs de l'enfer. Enfin, la vérité, je prétends pas la voir, mais au moindre mécontentement, je préfère les dire au revoir à la recherche digne ou d'un autre assistant social honnête, sympa, qui font son travail comme il faut. Il faut pas baisser les bras, je vous parle. Un rappeur, c'est le témoin du mal. Normal que tous les discours se rassemblent. On chante la souffrance et ceux qui en souffrent les ressentent sous la gaieté. Apparente, au devine le désespoir, mais où est un cœur à la vie de notre destin. Mes mots sont affûtés tel qu'un poignard. Mes phrases sont aiguisées comme une lame. J'arrive et je dégaine sur scène et j'ai saigné un blanc pour dégazer. Je prends pas des gants, j'y vais franchement, et pourtant je suis pas méchant. Alors l'inspire, expire, moi pour mes textes, je m'inspire du pire et du meilleur. Du pire et du meilleur.
Motivé, motivé,
il faut patienter, il faut patienter.
Fatigué, fatigué,
j'attends, j'attends.
Dégonflé, dégonflé,
il faut patienter, il faut patienter.
Effondré, effondré,
je ne vois rien.
Comment se faire confiance?
Je ne sais pas.
Comment se faire confiance?
Je ne sais pas si m'écoutez.
Dans mes premiers contacts avec mon référent, j'ai souhaité qu'il soit réceptif à mes problèmes et respectueux au rendez-vous fixé et surtout entreprenant aux démarches déjà amorcées.
On peut tout dire, on peut tout se dire, même s'il y a des choses douloureuses, s'il y a des choses pas très belles, s'il y a des choses incompréhensibles. On en voit de toutes les couleurs dans la vie, mais regardons toujours au-delà. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à améliorer. Surtout ne pas juger, tâcher de comprendre l'autre. Avec le temps, il se révèle tant de choses. Avec le temps, on apprend tant de choses. Regardons-nous mutuellement, regardons-nous dans les yeux. Non pas il est blanc, non pas il est noir, non pas il est beau, non pas il est laid, mais tous libres et égaux. Regardons-nous dans les yeux profondément, nous trouverons une réponse à nous-mêmes et à l'autre. Étranger, bien intégré.
La première fois que je suis arrivée au foyer avec mon assistante sociale, elle a pris un sac de pommes de terre, il l'a posé. Elle est partie. Dès demain matin, je descends, je dis bonjour à tout le monde. Et on m'a répondu que je pourrais partir ce soir ou demain. Je me suis mise à pleurer. J'avais peur de dormir dehors, encore dehors. Ni demain matin, j'appelle mon assistante sociale et je lui explique qu'est-ce qui se passe. Et elle m'a répondu qu'il m'avait oublié. L'éducatrice m'a pris dans son bureau et m'a dit ne pleure pas, on ne jette pas les femmes dehors. Mais cette personne que moi je veux dire merci.
Motivé, motivé,
il faut patienter, il faut patienter.
Fatigué, fatigué,
j'attends, j'attends.
Déconflé, déconflé,
il faut patienter, il faut patienter.
Effondré, effondré,
je ne vois rien.
Comment se faire confiance?
Je ne sais pas.
Comment se faire confiance?
Je ne sais pas si m'écoutez.
Ça c'est du rap du quotidien. C'est un sourire ou une larme, comme un oiseau qui monte au ciel. C'est un orage, un arc-en-ciel, des yeux d'enfant qui vous désarment. C'est la montée d'un long montant, comme l'inconnu des lendemains. C'est le passé qui vous revient. Je suis libre de vivre dans n'importe quel pays, parce que la terre est à nous, ça nous appartient. C'est pas pour les ceratosaures, l'allosaure, dinosaure. Alors pourquoi vous me coincez? Je suis étouffé par la respiration. Mon assistant social, t'es où, s'il vous plaît? Envoie le dossier, je suis arrivé à la pointe finale. Maintenant, le ballon est dans vos pieds. Si vous me donnez les passes, je peux marquer comme Messi. Si c'est sûr, le filet, ça va bouger. Les publics vont crier. Oh! Poisson dans le mer, elle pleurait, mais personne ne les croyait. Parce que tout cela se mélange dans l'eau. C'est comme nous qui va venir à nos secours. Je pense que le seul intermédiaire entre nous et la préfecture, c'est le travail social. Alors je vais essayer encore donner ma confiance à mon assistant social nouveau.
À mon assistant social nouveau.
Motivé, motivé,
il faut patienter, il faut patienter.
Fatigué, fatigué,
j'attends, j'attends.
Dégonflé, dégonflé,
il faut patienter, il faut patienter.
Effondré, effondré,
je ne vois rien.
Comment se faire confiance?
C'est parce qu'il sait que je ne connais pas mes droits qui me fait ça.
Comment se faire confiance?
Je ne sais pas, ta confiance ne me suffit pas.
Écoute ta radio où tu veux, quand tu veux.
www.radionewsfm.fr.
Vous êtes bien toujours sur News FM, l'émission micro-ondes contre le racisme, les frontières et les injustices sociales. Et donc, après ce premier thème sur le plan hivernal et sur l'hébergement catastrophique qui est proposé dans l'agglomération grenobloise encore plus qu'ailleurs, on va passer à la gestion par l'Europe de ses frontières.
C'est ça en effet, parce que entre la soi-disant crise des personnes migrantes cet été qui faisait la une des médias, la crise sanitaire et les grosses difficultés que rencontrent les personnes migrantes à Calais, et toute la polémique actuelle sur la déchéance de nationalité pour les personnes binationales, on entend souvent parler des personnes ayant migré en France, et on entend surtout un peu tout et n'importe quoi, sans une réelle explication des migrations, des politiques migratoires, de la gestion des frontières, mais aussi sans une réelle explication de l'utilisation de la nation et de la nationalité dans les pays européens. Alors, un peu comme chaque mois, le but est un peu de décrypter cette actualité, eh ben on a eu envie d'aller dans l'analyse et de comprendre un peu mieux quel accueil est vraiment fait aux personnes migrantes en Europe et quelles sont les politiques migratoires en Europe. Après avoir échangé lors de notre première émission avec Olivier de l'ADA sur le parcours du demandeur d'asile, on remonte cette fois un peu plus en amont de ce parcours pour discuter vraiment de justement quel accueil est fait aux demandeurs d'asile. Quelles sont les frontières, qui les gère, comment elles sont traversées par les personnes, etc. Pour ça, on accueille des militantes du groupe de Confrontières, donc, qui militent un peu à sa façon contre les frontières et leurs conséquences, et qui sont donc très bien placées pour aborder le sujet. Est-ce que vous pouvez donc un peu vous présenter, nous dire un peu en quoi consiste le projet Confrontières ?
Oui, alors Confrontières, c'est un groupe qui a fabriqué un exposé sur les politiques migratoires européennes. C'est un exposé qui est composé de lectures, de films, d'extraits audio, de chansons. Et c'est un exposé qu'on présente dans différents lieux, dans les endroits où on nous invite, un peu comme un spectacle qui est souvent suivi d'un débat. On fait des fois des tournées, comme là, le week-end prochain, on va aller à Lausanne, Genève, etc. Alors nous, on n'est ni des spécialistes, ni des personnes qui ont vécu les parcours de migration dont on parle dans l'exposé. Au début, quand on a eu l'idée de faire cet exposé, c'était pour donner le temps d'approfondir et de partager des connaissances, de partager une réflexion, une analyse du contexte politique sur les questions de migration. C'est aussi parce que dans nos actions de solidarité avec des personnes exilées, en fait, on se retrouvait souvent confrontés à l'urgence. Et cette urgence, elle est provoquée entre autres par la misère, par la répression, par les démarches administratives infernales. Et elle laisse peu de temps à tout le monde pour approfondir les réflexions sur ce qui se passe autour de l'immigration aujourd'hui et pour élargir ça à une vision plus globale. Pour nous, c'est important de visibiliser, de pointer, de combattre nos systèmes politiques là où ils font des ravages. Et on se sent concerné non seulement parce qu'on vit dans un État colonialiste qui met en place la misère et qui en profite bien, mais aussi parce qu'on pense que tous les systèmes de domination se nourrissent ou se protègent les uns les autres. Et comme on est impliqué dans différentes luttes, on pense que c'est nécessaire de créer des liens et des solidarités entre chacune de ces luttes. Donc du coup, on repose en général, avant l'exposé, avant de le commencer, quelques-unes de nos bases politiques pour qu'on sache un peu où on se place sur ces questions de migration. Donc on est pour la liberté de circulation et d'installation. On s'oppose à l'impérialisme, au colonialisme et au néocolonialisme. Et on considère que ces différents systèmes sont à la fois les principales causes et les principales entraves des parcours migratoires. Du coup, dans l'exposé, bon, nous, on parle de la gestion des frontières européennes, mais ça ne doit pas nous faire oublier que les mouvements migratoires, ils sont beaucoup plus nombreux et complexes. Il y a un imaginaire assez répandu qui verrait toutes les migrations tournées vers le centre de l'Europe, comme si l'Europe était assaillie de toutes parts par les migrants. C'est ce qu'on entend dans les médias tout le temps. En fait, cet imaginaire est clairement raciste et il ne reflète pas la réalité, qui est bien plus complexe, des parcours migratoires. En fait, la plupart des réfugiés sont accueillis par des pays dits du Sud et la plupart des personnes qui migrent vont dans des pays frontaliers aux leurs. Par contre, on rappelle très peu dans les médias, disons normalement, les responsabilités des États et des firmes européennes et des firmes occidentales en général, dans les guerres et dans la destruction des structures économiques et sociales, à la fois dans les anciennes colonies ou dans les pays riches en ressources naturelles, comme pour les Balkans. Et en fait, ces responsabilités-là, en fait, ces guerres et cette destruction des structures économiques et sociales qui sont à la racine de la plupart des migrations subies, et c'est de ces migrations qu'on parle dans l'exposé. Donc pour nous, c'est une source d'apprentissage et d'enrichissement de fabriquer cet exposé. Il est en constante évolution, en fait, au fur et à mesure de l'actualité et aussi au fur et à mesure des retours de plein de gens qui écoutent l'exposé et qui réagissent. Nos sources, ouais, sur la question de la politique européenne aux frontières, c'est principalement MigrEurope, Logisti et Frontexploid. On a aussi une brochure qu'on a fait et qui reprend l'ensemble de nos textes, mais bon là, il faut qu'on la remette à jour. Du coup, dans l'exposé, on parle d'abord des notions de nation et de frontières, puis on parle de l'externalisation des frontières, ensuite de la place de l'humanitaire dans la gestion des migrations et dans le tri des exilés, Et pour finir, on parle de la militarisation des frontières. Et on arrive à la conclusion que l'Europe mène aujourd'hui clairement une guerre contre les personnes exilées et que c'est sur ça qu'on veut lutter.
Ok, super. Bah, merci du coup à toutes les quatre de venir ici pour nous proposer un peu un petit éclairage et justement aussi un autre regard sur les frontières. Je m'aperçois que je vous ai même pas dit bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, ce que je vous propose, c'est bah du coup, on est parti un peu sur ce biais de l'actualité, justement d'une actualité assez partielle et assez aussi partiale par rapport à la question migratoire. Je vous propose un peu de revenir sur quelques événements médiatiques et d'analyser un peu les ressorts politiques de ces événements. D'ailleurs, si aussi auditeurs, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'antenne. On a donc un numéro 04 56 14 23 54. On essaiera de vous répondre un peu dans la mesure du possible. Une première question du coup par rapport à cette actualité, une actualité assez récente. Avec les attentats du 13 novembre, les politiques nous ont beaucoup invités à l'unité nationale, à tous s'unir au nom de la France, à afficher les drapeaux français sur les fenêtres, contre une menace qui viendrait soi-disant s'attaquer à nos valeurs. Mais du même coup, au nom de cette même défense de la nation, le pouvoir a alors fortement stigmatisé une partie de la population, en l'occurrence les personnes musulmanes, et donc a rompu un peu cette soi-disant unité. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette ambiguïté entre la nation unie et la nation qui exclut ceux qui ne correspondent pas à l'idéal national français, en l'occurrence?
Ouais, et ben moi j'avais envie de commencer par rajouter que cet exposé on le fait depuis 2 ans, et du coup depuis 2 ans on parle de la construction de la nation, et c'est vrai que là par rapport à l'actualité c'est d'autant plus pertinent. Ça veut pas dire que ça l'était pas avant, mais disons vu la propagande des médias dominants autour de l'unité nationale, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. À la base, ce qui nous a donné envie de parler de la nation, c'est en fait comment c'est une émotion. C'est-à-dire que, en fait, ça va avec l'État. Donc l'État, ça serait un peu les lois, les institutions, le contexte de structure. Et la nation, ça serait l'émotion, le sentiment de vivre ensemble, quelque chose un peu comme ça. Alors, pour voir cet aspect naturel dans la nation, on peut juste prendre le fait que quand on n'a pas la nationalité, qu'on n'a pas obtenue par héritage, eh bien, on peut... si on la demande, on va se faire, si ça marche, naturaliser. Donc on entend très bien le terme de nature là-dedans. Et une des manières de critiquer les émotions, parce qu'en fait c'est bien connu, on ne va pas contre ces émotions, c'est quelque chose d'un peu spontané, quoi. C'est de voir qu'en fait ce concept, il a une histoire, et que cette histoire, c'est celle du pouvoir, en fait, parce que c'est toujours des personnes qui ont utilisé ce concept-là et qui lui ont fait dire à peu près tout ce qu'ils voulaient. Je sais pas, à l'époque monarchique, par exemple, la nation était catholique et l'émanation de la nation était le roi. Bon, a priori, maintenant, c'est plutôt la valeur laïque qui est utilisée.
Du coup, un concept systématiquement utilisé par le pouvoir un peu pour asseoir sa domination.
Ouais, tout à fait. Et ça passe par des outils de propagande, et notamment il y a eu à un moment la fabrication de la langue française. La langue française, c'est censé être voilà ce qui unit toutes les personnes et tout ça, et qui parlent la même langue, et du coup qui sont censés penser de la même manière puisqu'ils parlent la même langue. Et du coup, à un moment, on a choisi un patois, on s'est dit, bah ça, c'est la langue de l'État, ça devient la valeur nationale, et on va la répandre, et notamment, on va la répandre par l'école. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu la propagande de cette époque à l'école, avec des soldats qui disent, je viens défendre la nation, et tout ça. C'était pas très fin. On peut pas vraiment dire que ça soit plus fin maintenant, mais bon, voilà. Alors, un des outils de propagande, c'est aussi celui, donc tu l'as soulevé, Baptiste, du drapeau, c'est-à-dire un moment du symbole. Ça vient synthétiser les valeurs et puis ça vient faire un truc un peu simple, quoi. Et en ce moment, on les voit fleurir partout, et notamment pour te répondre sur l'actualité, le 27 novembre, il y a eu des ouvrières du textile en Mayenne qui ont fabriqué un canapé bleu, blanc, rouge. Du coup, en dehors de leurs horaires de travail, les patrons étaient d'ailleurs un peu étonnés qu'elles aient eu cette initiative-là. Et alors moi, je trouve ça assez intéressant pour venir décoder ce que c'est la nation, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des personnes qui ont donné de leur force de travail pour fabriquer quelque chose à l'effigie du drapeau français, qui va ensuite être vendu aux enchères, et on peut se demander combien est-ce qu'elles ont touché sur cette vente, a priori rien. Faut vérifier quoi. Mais c'est vraiment ça qui est intéressant avec la nation, c'est qu'en fait ça crée cet intérêt commun, cette solidarité, c'est-à-dire qu'en fait la solidarité ne va plus aller vers les personnes avec qui on partage la même condition de vie, parce qu'a priori, enfin vous voyez, ouvrier patron, enfin je me trompe pas trop en disant ça, n'ont pas les mêmes intérêts. Bon. Eh ben non, là en fait on va tout fondre ensemble et puis on va se dire qu'on a tous et toutes le même intérêt qui est la défense des valeurs françaises, valeurs qui ont elles-mêmes été construites quoi.
Donc ça permet un peu d'effacer les clivages, c'est ça un peu?
Tout à fait, tout à fait. Et puis ça vient jouer sur la guerre en fait, parce que bon, là a priori la France est en guerre, ça veut pas dire qu'elle n'était pas avant, mais là bah c'est un peu comme la propagande autour de la nation, c'est très très fort. Et ben la guerre c'est pareil, en ce moment c'est très très fort, c'est plus caché et en sous-main, mais c'est vraiment très très fort. Et ça marche ensemble en fait, parce que quand on a une nation unie, on peut se dire ah ben on va aller faire la guerre au nom de ses valeurs, au nom de cette nation quoi. Et alors là, donc comme tu le soulevais dans cette question, la guerre, elle se fait non seulement vers l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, avec la notion d'ennemi intérieur. C'est-à-dire que l'enjeu avec la nation a toujours été de délimiter qui c'est qui fait partie du corps national et qui sont les autres radicalement. Et il y a toujours eu cette scission à l'intérieur, mais là, elle est assez assumée. Elle est assez assumée de dire, ben, en fait, il y a un ennemi intérieur, quoi. Et
on lui donne même un visage.
Ouais, dont les valeurs sont radicalement différentes et ne sont pas, c'est pas envisageable de pouvoir les faire fonctionner ensemble. Alors, juste pour continuer un tout petit peu sur le petit point historique, je vais parler du 19e siècle, parce que moi j'aime beaucoup parler du 19e siècle, parce qu'en vrai, je pense que toutes les problématiques dans lesquelles on se retrouve, eh bien, elles ont une bonne racine dans ce moment-là. Alors le 19e siècle, c'est la naissance de l'époque dans laquelle on vit, et puis on en a les bonnes répercussions, et notamment, on n'explique plus les choses par Dieu, du moins en Occident, mais on les explique par la science. Vous allez voir quand ça va revenir sur la nation, hein. Là c'est mon petit plaisir personnel. Du coup la science, ça veut dire qu'il y a des gens qui partent de l'Occident, qui vont les étudier partout dans le monde et qui vont avoir des petites fiches où ils vont noter les détails corporels des gens. Donc là, on est dans l'ère rationnelle, quoi. On explique les choses par la science, et racialiste, c'est-à-dire on va aussi fabriquer la notion de race et fabriquer la notion de genre et fabriquer la notion de classe, quoi. Oui. Donc on va noter, on va dire, ah bah telle race-là, elle a tel truc, et puis tel truc, et ça veut dire qu'elle va pas être considérée de la même manière en fonction de où est-ce qu'on va la mettre dans la hiérarchie. Et alors on peut se demander qui c'est qui se retrouve au top de la hiérarchie, et ben c'est les mêmes personnes qui en fabriquent les critères, on sera pas très étonné.
Mais aujourd'hui, du coup, la différence, elle est toujours basée sur la science, l'aspect scientifique.
Ah, Madame Ned, tu m'as coupé un bout.
Ah.
Je vais quand même continuer, excuse-moi. Okay, alors, du coup, non seulement là, il y a science, mais il y a aussi la question des droits. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, avec cette hiérarchisation scientifique, on va faire une hiérarchie de droits. On est censé être dans le droit universel, et en fait, on se rend compte que comme il y a des gens différents, ça veut dire qu'il y a des droits différents. Et là, par exemple, on va avoir le code de l'indigénat. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le 19e siècle, c'est aussi la période coloniale. Donc on est en plein essor du capitalisme, il faut de la matière première, et du coup on va aller coloniser d'autres territoires sous prétexte que ces gens, de toute façon, dans la hiérarchie qu'on vient de fabriquer là, sont en bas. Du coup on peut tout à fait se permettre d'aller les exploiter, les buter, enfin il n'y a aucun souci, quoi, voilà. Et du coup pouvoir faire prospérer le commerce et le capitalisme. Donc, pour te répondre sur cette question-là, là, on a cette question de droits différents. Alors qu'on est censé être dans un truc universel, eh ben non, là, on va avoir des droits et des obligations qui sont différentes en fonction de est-ce qu'on est sur le territoire national de base ou est-ce qu'on est dans un territoire qui est annexé. Et on va voir que ça se joue sur la question de la suprématie blanche, en fait. La nation, c'est vraiment... Je ne sais pas comment dire. C'est vraiment, on peut le voir grâce à ces exemples-là. C'est vraiment le fait que, à un moment, les personnes qui sont blanches déterminent qui c'est qui a le droit de rentrer et qui c'est qui n'a pas le droit. Et du coup, on va pouvoir assimiler, mais jamais en masse, cette question-là. Et du coup, pour répondre à ta question, on passe d'un racisme qui est biologique, donc avec cette hiérarchisation, à un racisme qui est culturel. Qu'est-ce qui fait que ça change ? Ben, c'est la Seconde Guerre mondiale. A priori, l'hypothèse de l'extermination d'une race par une autre, c'est plus acceptable. Et du coup, on va faire autre chose. Et qu'est-ce qui vient remplacer le racisme biologique ? Eh bien, c'est le racisme culturel. Du coup, ça veut dire qu'il y a des personnes qui, non plus, sont biologiquement différents les uns des autres, mais qui sont culturellement différents. Du coup, ils ne peuvent pas avoir le même accès à la nation. Voilà. Et du coup, ensuite, il y a eu la décolonisation. Cette inégalité de traitement, elle n'est pas encore terminée, même si en fait cette lutte a vraiment fait transformer des choses. Et un des rapports de continuité, je sais que c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé à micro-ondes, c'est la question de l'état d'urgence, c'est-à-dire comment cette pratique de l'état d'urgence, qui à un moment est un outil de guerre pendant la guerre d'Algérie, eh bien en ce moment est réutilisée dans la période actuelle.
D'accord, ok. Une autre question d'actualité, un peu, on a récemment entendu que la Turquie avait donc complètement autre chose en politique internationale. On a récemment entendu que la Turquie avait signé un accord sur l'immigration avec l'Union européenne, notamment vis-à-vis des migrants venant de Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement ?
En fait, c'est pas complètement autre chose, parce que c'est toujours dans cette idée de l'Europe et le reste du monde, et c'est là-dedans qu'on est encore, et c'est pour ça qu'on parle de la nation de cette manière-là et de la colonisation. Parce qu'on reste dans un imaginaire et dans des pratiques politiques qui sont sur ces bases de l'Europe et le reste du monde, en fait, notamment sur la question des frontières européennes. Et du coup, cet accord de l'Union européenne avec la Turquie, c'est un accord, comme l'Union en a signé avec de nombreux autres pays, pour empêcher les exilés qui passent en Turquie, ou qui sont turcs, d'arriver jusque dans l'espace Schengen. Donc l'espace Schengen, c'est l'espace de soi-disant libre circulation en Europe. Je dis soi-disant parce qu'en fait, il y a des contrôles partout pour les personnes qui n'ont pas de papier, à qui on ne veut pas donner de papier, et qui sont considérées comme, du coup, illégales sur le territoire européen. Des contrôles qui sont exercés par la police aux frontières, qui est partout sur le territoire, à l'intérieur de l'espace Schengen. Il y a aussi des centres de rétention, des prisons pour étrangers, du harcèlement, etc. Donc, dans tous les cas, voilà, l'idée, c'est quand même d'arriver à bloquer les personnes avant qu'elles arrivent dans cet espace Schengen où il n'y aurait plus de frontières. Voilà. Moins de contrôle, en tout cas. Cet accord, il prévoit un financement de 3 milliards d'euros pour que, officiellement, la Turquie accueille les exilés chez elle et leur donne les moyens d'y rester. En fait, c'est bien un accord pour que la Turquie elle rende service à l'Union européenne, encore plus que ce qu'elle faisait déjà, disons, mais ça n'a rien à voir avec un service humanitaire. Il faut bien regarder les détails de l'accord. En fait, il s'est déjà passé la même chose aussi avec le Maroc en 2006. Et donc, il ne faut pas tomber dans le panneau. Ce qu'on demande à la Turquie, c'est qu'elle contrôle, qu'elle enferme, qu'elle trie, qu'elle refoule et qu'elle bloque par tous les moyens les personnes qui fuient leur pays pour rejoindre l'Europe et qui passent par la Turquie, par son territoire, dont beaucoup de Syriens et de Syriennes en ce moment. Donc, notamment, c'est prévu dans l'accord qu'il y ait des opérations conjointes des gardes-côtes avec l'objectif de blocage des frontières. Donc des gardes-côtes entre les gardes-côtes grecs et les gardes-côtes turcs, et qui est une grosse partie du financement soit sur la sécurité, la sécurisation des frontières, des zones frontalières. Et aussi, on demande à la Turquie, dans cet accord, qu'elle réadmette sur son sol, sur son territoire, les personnes qui sont passées illégalement dans l'espace Schengen et qui seront réexpulsées vers la Turquie, parce que l'Europe n'a pas le droit de réexpulser des personnes dans un pays sans l'accord de ce pays. Donc elle signe des accords de réadmission qui lui permettent de réexpulser avec l'accord des pays les personnes. Du coup, l'Europe profite en fait en ce moment du fait que la Turquie attend toujours son entrée dans l'Union européenne. Depuis 1959, la Turquie a demandé son entrée et donc ça traîne. Et du coup, l'Union lui demande d'appliquer sa politique de blocage des frontières à sa place, en lui faisant miroiter l'avancée de son dossier de candidature dans l'Union. Et en lui faisant miroiter aussi d'autres contreparties, par exemple sur la circulation en Europe pour les Turcs, des visas, l'autorisation de visa, etc. Et la Turquie, de son côté, profite du fait que l'Europe, en ce moment, sur la question des migrations, a besoin d'elle, pour l'obliger à se taire et à fermer les yeux encore plus que ce qu'elle fait déjà sur toutes les atteintes aux droits humains qu'elle est en train de commettre, à la fois contre les oppositions politiques et contre les Kurdes, les militants kurdes. Notamment, par exemple, l'Europe n'a pas diffusé un rapport sur la répression avant la campagne électorale en Turquie, pendant qu'il y avait ces négociations, elle l'a diffusé qu'après. où la Turquie a demandé à l'Europe qu'elle l'inscrive sur la liste des pays sûrs, ce qui permet de rendre beaucoup plus difficile la demande d'asile pour les personnes, pour les opposants politiques ou les Kurdes qui voudraient demander l'asile en Europe. Et ensuite, la Turquie profite aussi de ça pour demander un financement qui pourra servir à la répression en interne, puisqu'il est prévu pour la sécurité en grande partie. Bon, en fait, de toute façon, dans cette histoire, personne n'a l'intention de respecter les droits humains, ni l'Union européenne, ni la Turquie. Par contre, c'est encore 3 milliards qui vont dans le renforcement de la sécurité aux frontières et qui permettent à l'Europe de se laver les mains de ce qu'il adviendra des réfugiés, notamment des réfugiés syriens qui sont en Turquie, contrairement à tout ce qui se dit dans les médias. Et des accords comme ça, en fait, l'Union européenne, elle en signe avec de nombreux pays, surtout avec les pays frontaliers. En fait, c'est même une politique systématique de l'Union européenne depuis les années 2000 de demander à d'autres États de réprimer eux-mêmes les exilés qui veulent aller en Europe. Donc on appelle ça l'externalisation des frontières. Enfin, c'est les militants qui appellent ça l'externalisation des frontières. Et notamment le réseau Migreurap, qui est un réseau de chercheurs et de militants africains et européens qui travaillent sur cette question de la politique aux frontières. Et en gros, cette externalisation, c'est que l'Union demande à d'autres pays de faire le boulot, de stopper les gens par tous les moyens et de les dissuader avant même qu'ils arrivent en Europe. La plupart du temps, ça passe par des accords avec des dictatures alliées, des anciennes colonies. Bon, ça va souvent ensemble, vu que c'est la base du néocolonialisme de soutenir activement l'installation et le maintien de dictatures qui arrangent les intérêts de l'Europe. L'UE utilise aussi dans ses accords sa domination économique pour faire passer tout ce qu'elle veut faire passer sur les migrations. Par exemple, une bonne partie de l'aide au développement, elle est dédiée aujourd'hui à la lutte contre les migrations. Et dans tous les accords économiques aujourd'hui que l'Union signe avec des pays dits du Sud ou d'autres pays frontaliers, donc les accords d'ouverture de marché et tout ça, il y a un volet sur le contrôle migratoire et sur la répression des migrations d'exil. Comme par exemple dans l'accord de Cotonou avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, il y a un volet sur le contrôle migratoire et le blocage de l'émigration de ces pays. Donc dans ces accords, ça peut être de la réadmission, donc ça on l'a déjà vu, ça peut être aussi de la dissuasion par des programmes de propagande, comme c'était le cas au Mali, ça peut être aussi de la répression pure, des camps, des refoulements, des rafles violentes, comme en Libye, au Maroc, et bientôt sûrement en Turquie.
Est-ce que les pays acceptent, enfin on comprend bien du coup l'intérêt de l'Union européenne de demander à d'autres pays de contrôler les frontières et d'empêcher les migrants de traverser, est-ce que les pays en général, eux, acceptent de réadmettre les migrants, par exemple, etc.?
Ça dépend. Il y a des... Bon, la plupart du temps, en fait, les pays n'ont pas souvent le choix parce que c'est justement ça s'inscrit dans des relations néocoloniales où il y a une forte dimension de dépendance économique, voire politique, des régimes en place et des structures économiques en place. Du coup, la France est souvent en position de force et donc les accords, la plupart du temps, sont acceptés. Mais il y a des pays qui ont refusé quand même, souvent sous la pression de mouvements très forts, notamment au Mali. Mais par contre, le résultat, c'est que du coup, il y a eu des rétorsions économiques et des formes de répression face à ça, quoi.
Et je vais poser une question naïve. Que deviennent tous ceux qui sont bloqués sur ces frontières externes?
C'est ça, c'est que du coup, peut-être on en reparlera plus tard, mais en tout cas, dans toutes ces zones où sont bloqués les migrants, comme au Maroc, comme en Libye, comme en Turquie, et dans d'autres endroits, en fait, toutes les zones de blocage comme ça, ça crée des zones, en fait, où toutes les personnes sont bloquées, n'ont aucun droit, n'ont pas le droit de travailler, n'ont pas le droit de bouger, n'ont pas le droit d'avoir accès aux droits du pays où elles sont. Et toutes les personnes ont l'intention de partir, en plus, et pas de s'établir sur place à la base. Et du coup, ça crée des zones où il y a des campements informels, où il y a des campements organisés par les États sur place, des zones où il y a des rafles. En fait, c'est des zones de non-droit pour ces personnes en migration, quoi. Et c'est des zones de violation de droits où on entend parler souvent, si on se renseigne un peu, quoi, au Maroc, en Turquie, en Libye.
Ça me donne d'ailleurs du coup l'occasion...
Et à Calais.
Et à Calais. C'est encore un autre exemple, ouais.
Calais, ouais, bon
on
exemple.
On va en parler, c'est pour ça que...
ouais, non, c'est vrai. À propos du coup, donc, justement, un peu de ces zones tampons, ces zones où sont bloquées les personnes, et du tri humain qui est fait... On peut s'étonner justement que les migrants syriens, eux, ont obtenu assez facilement, en tout cas, un certain droit d'asile, alors que des milliers de personnes attendent encore une réponse. Comment s'effectue, en fait, justement, ce tri humain entre les migrants légitimes et les soi-disant clandestins ou les soi-disant fraudeurs? Qui c'est qui s'en occupe? Comment ça se passe exactement?
Alors, je voudrais déjà revenir un petit peu sur cette actualité sur les migrants syriens qui obtiennent le droit d'asile. Parce qu'avec cette idée dans les médias, ça parle vachement mal de la situation. Donc là, le gouvernement français a annoncé l'accueil de 24 000 réfugiés syriennes et syriens sur 2 ans. Et bon, on sait que c'est dérisoire par rapport à la situation. Donc cette annonce, en fait, elle détourne le regard de la réalité, en fait, des politiques migratoires sur le sol français, car donc ces personnes-là, ces 24 000 personnes, elles seront choisies parmi celles qui sont bloquées à l'extérieur des frontières européennes. Donc, quid des personnes qui sont déjà sur le territoire, qu'elles aient donc du coup, enfin, asile ou pas, là, on s'en fout, quoi. En France, il y a eu une réforme du droit d'asile il n'y a pas longtemps, donc la procédure de Dublin qui permet de renvoyer les personnes vers le pays d'entrée en Europe. Et ça rend plus difficile la situation des personnes exilées, qui sont déjà sur le territoire, qu'elles soient syriennes ou non. Et donc, ça facilite aussi leurs expulsions. Ça fait partie du tri. Les personnes qui veulent demander l'asile en France, elles continuent à passer dans cette question du tri, en tout cas sur le territoire français, un peu la spécificité française, mais pas que. C'est que donc les personnes qui demandent l'asile en France, elles passent de longs mois à la rue avant de pouvoir accéder à cette procédure. Et puis même une fois qu'elles ont accédé à cette procédure, souvent elles restent à la rue. Les gouvernements, là, actuellement, avec cette histoire de l'asile des Syriens, annoncent des nouvelles places d'hébergement et l'accélération de la procédure. Sauf qu'en fait, pour entrer dans cette procédure accélérée, il faut avoir accès aux préfectures. Et rien, actuellement, n'est prévu pour raccourcir les délais et donc faciliter l'entrée dans cette procédure. Donc, en France, on a surtout une politique de dissuasion par le non-accueil à l'encontre des personnes exilées. Et ça va continuer. Donc c'est pas tant quand même que la France, comme les pays d'Europe, ils se montrent incapables de respecter les droits et la dignité des exilés, quel que soit leur statut. Or, en fait, par rapport à cette question des exilés et la défense des droits, il y a un gros commissariat qui est délégué par l'ONU, qui s'appelle le Haut Commissariat aux réfugiés, et qui a pour mission de veiller au respect donc des droits universels, patati, blablabla, tout ça, et donc via la Convention de Genève. Alors ce commissariat, depuis quelques années, il interpelle plus ou moins gentiment les États européens sur le nombre de morts aux frontières en Europe. Mais dans le même temps, il demande des financements pour installer des bureaux en dehors des frontières européennes afin de trier les migrants avant qu'ils rejoignent l'Europe.
Ce qu'ils font en ce moment pour les Syriens, du coup, c'est ça?
Oui.
Ok.
Là, du coup, c'est un peu proche de l'Europe, mais par exemple, il y a ces trucs de hotspot là dont on entend un peu parler, où ça fait partie de ce système-là. Donc, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. Ils sont extrêmement interventionnistes en dehors du continent européen et hyper passifs, en fait. Enfin, c'est vraiment surprenant à quel point ils sont passifs en Europe. Donc, ce commissariat, il doit faire respecter la Convention de Genève. Alors, cette convention, elle dit ce qu'on retrouve dans le manuel du Haut Commissariat aux réfugiés. On entend par réfugié toute personne qui se trouve en dehors de son pays d'origine ou de sa résidence habituelle et qui ne veut pas ou ne peut pas y retourner et ne peut pas réclamer la protection donc de ce pays. Donc en Europe, on voit qu'on est vachement loin du compte. Et le HCR, non seulement il joue pas son rôle dans les pays riches, mais en plus il fait tout pour garder les gens qu'il juge indésirables loin des frontières européennes. Donc dans ces bureaux là, le long de la Méditerranée, le HCR fait installer, ces bureaux ils sont installés dans des espaces de frontières externalisés, loin du continent européen, et donc il fait un tri et il distribue les statuts de réfugiés avant que les personnes aient rejoint l'Europe. Et donc comme ça les bloque dans les pays comme la Libye, le Maroc, etc. Comme ça, ils empêchent de circuler les exilés qui n'ont pas été sélectionnés en leur appliquant des statuts qui sont proposés par les politiques européennes, donc migrants économiques, déboutés, tous ces trucs-là. Donc j'en passe. Et ensuite, les accords de réadmission dont a parlé Marie, là, ils font le reste pour qu'ils soient expulsés. Alors je voudrais mettre en parallèle 2 exemples, donc celui de Calais, en France, et l'exemple de Choucha, en Tunisie, pour montrer comment le HCR, en fait, il fait le tri humain que les gouvernements occidentaux lui demandent. Donc je vais commencer par Calais. Donc c'est une ville de France et c'est un lieu où la frontière anglaise est externalisée sur le sol français. Donc les personnes qui veulent passer en Angleterre sont retenues en masse. Le système de la frontière externalisée, c'est que c'est les Français qui doivent bloquer la migration vers l'Angleterre, et l'Angleterre met à disposition des moyens financiers, humains, pour faire ce blocage. Donc en 1999, la France, elle doit admettre une situation d'urgence humanitaire de grande ampleur, parce que donc elle a fermé sa frontière et il y a des populations qui sont bloquées. Et ces personnes, donc, c'est depuis 1990, c'est un peu le reflet des conflits Donc, c'est-à-dire, il y a des personnes qui sont polonaises, roms, tchèques, puis yougoslaves et afghanes, et aujourd'hui donc soudanaises, syriennes, etc. Donc, selon la définition, selon le HCR, ils ont tous le droit d'asile. Enfin, le HCR et l'ONU, etc. Mais ça se passe pas comme ça quand il y a une frontière qui est renforcée. Donc, à Calais, on nous dit que c'est la crise humanitaire, qu'il faut des solutions humanitaires. Et donc, cette solution, c'est de créer le camp de Sangatte en 1999, avec l'aide du HCR. 3 ans après l'ouverture de Sangatte, en France comme en Angleterre, les discours politiciens et médiatiques accusent le camp de Sangatte d'être responsable de la présence des personnes exilées. Pour ne pas pérenniser cette situation, donc, il faut fermer le camp de Sangatte, bien sûr.
Qu'ils ont eux-mêmes ouvert 3 ans avant.
Oui, voilà, c'est ça. C'est extrêmement logique de se dire que c'est la faute du camp. Bref. Donc, les personnes exilées, les personnes qui sont présentes dans le hangar de Sangatte à cette époque, ils sont badgées et fichées. Elles sont badgées et fichées. Donc, la plupart sont acceptées en Angleterre. Mais par contre, certaines personnes qui sont dans le hangar, enfin, une minorité vraiment, mais toutes les personnes qui ne sont pas dans le hangar sont raflées. Et on les renvoie dans le centre de rétention de Coquel, qui est juste à côté, ou dans d'autres centres de rétention en France. Donc le camp de Sangatte ferme, et après la fermeture, les gens s'organisent dans des camps de fortune. Et à Calais, la police rase régulièrement depuis cette époque et disperse les gens de manière super violente. Et en fait, Calais, ça devient vraiment une zone de non-droit. Les gens qui sont arrêtés par la police, ils sont conduits et déposés à plusieurs dizaines de kilomètres de Calais, voire à la frontière belge, et leurs affaires sont régulièrement brûlées. Les abris de fortune qu'ils ont réussi à construire sont gazés pour les rendre inutilisables. Et aussi, pour reparler de la question, cette question des exilés syriens, qui sont environ 300 à Calais, au même moment que la France annonce ses 24 000 personnes, c'est l'accueil de 24 000 personnes sur 2 ans, il y a 2 camps de Syriens à Calais qui sont rasés, donc pareil, super violemment par la police. Il n'y a pas eu de procédure légale pour faire ce truc-là, parce que normalement c'est annoncé à l'avance, il faut une demande en préfecture, etc. Et là, en fait, ça a été rasé sans préavis. Et même les policiers qui ont effectué ce travail, pour la plupart, ils n'étaient pas immatriculés. Parce que normalement, la police, quand elle intervient, elle a des matricules sur ses vêtements. Et là, la plupart des policiers n'étaient pas immatriculés.
Donc ils contournent un peu leurs propres règles.
Ouais, c'est peu de le dire. Donc, voilà, pour la situation à Calais. Et si on regarde ce qui s'est passé à Choucha, en Tunisie. Donc, c'est le même protocole que le camp de Sangatte. Donc, sauf que là, pour le coup, c'était piloté entièrement par le HCR. Vous pouvez voir sur Internet, il y a des photos avec des belles tentes avec le HCR dessus. Donc, ce camp de Choucha a été construit proche de la frontière avec la Libye et c'était, bien entendu, au milieu de rien. Il a été ouvert en 2011 et fermé en 2013. Pareil, en 3 ans, que ce soit à Calais ou à Choucha, le problème est soi-disant réglé. D'ailleurs, on trouve sur le site du HCR un peu les conclusions de leur travail. Alors, je vous cite un peu ce qui est écrit sur le site. Le HCR travaille pour trouver des solutions au bénéfice de la population de Choucha. Au pic de la crise, le camp a reçu jusqu'à 18 000 personnes par jour. La majorité d'entre elles ont été rapatriées sur une base volontaire vers leur pays d'origine, pour beaucoup avec l'aide du HCR et de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. On trouve également sur le site, là, dans ce compte-rendu sur le camp de Choucha, en ville, les réfugiés ont un accès garanti aux services essentiels comme les soins de santé et l'éducation. Sauf qu'en fait, les témoignages qui sont recueillis ne semblent pas du tout corroborer ce merveilleux tableau qui est présenté. Par exemple, l'accès aux soins ne peut avoir lieu que dans une seule ville au sud du pays. Donc, comme à Calais, après la fermeture du camp de Sangatte, la fermeture du camp de Choucha a généré les mêmes organisations pour les migrants dans des bidonvilles ou dans des banlieues populaires. Ils sont livrés à la police et les témoignages des conditions de vie dans cette zone, c'est des conditions de vie qui sont complètement inhumaines. Et il y a des témoignages absolument horribles qui font légion. Les gens sont raflés et abandonnés en plein désert, loin de la frontière. C'est un peu le même système qu'à Calais où les gens sont renvoyés loin de Calais, où les flics, les policiers à Calais, par exemple, ils peuvent même enlever les chaussures, enfin laisser les gens très loin et leur prendre leurs chaussures, par exemple. D'accord. Donc en France, la préfecture fait miroiter le droit d'asile et des soins en échange du fichage. Et à l'extérieur de l'Europe, c'est le HCR. Dans les deux cas, les personnes, une fois enregistrées dans les fichiers, sont majoritairement envoyées en centre de rétention, puis expulsées dans leur pays d'origine, dans des pays de transit ou n'importe où.
Mais c'est sur une base volontaire, non, rassure-moi.
Bien sûr, oui.
Mais du coup, je peux me permettre rapidement ou pas, j'ai un peu de temps, ouais. C'est juste que on parle de tri, parce que depuis le début, là, tu dis il y a un tri qui est opéré, mais en fait, le tri, il n'y a même pas de critère. Le critère, en gros, c'est celui qui va survivre à toute cette merde, quoi. Le tri se fait par un parcours impossible. Est-ce qu'il y a des critères pour le HCR, réellement, hein? Comment les Syriens sont triés? Et puis, je me demande si, en fait, le tri, c'est pas la galère dans laquelle on les met
Ouais, c'est ça. Le tri, il se fait par l'usure, ouais. Par l'usure du harcèlement, ouais, quotidien, mais aussi, par exemple, il y a des trucs administratifs que le HCR, mais que les pays, créent. Par exemple, ce truc de la liste des pays sûrs, ouais, où c'est une liste qui est complètement, la liste des pays sûrs, ça fait que si j'habite dans un pays sûr, je peux pas demander l'asile parce que ma demande d'asile va être pas légitime puisque mon pays est un pays sûr, donc je peux pas être en danger dans mon pays. Et par exemple, ce qu'on note, l'Allemagne là, quand ils ont accepté de l'accueil de Syriens, ils ont négocié en fait une rallonge de la liste des pays sûrs, notamment avec des pays comme le Kosovo, où on voit qu'en fait, sous prétexte d'accueillir des Syriens, et ben on va augmenter cette liste des pays sûrs. Donc c'est un truc qui est complètement
On vous prend des Syriens, mais par contre, vous rajoutez le Kosovo dans la liste des pays sûrs, en gros, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et donc, on va expulser plus de Kosovars et en échange, on va bien accueillir des Syriens, quoi. En gros, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Et puis,
c'est dégueulasse.
Les pays sûrs, du coup, c'est du marchandage diplomatique, quoi.
Ok. Mais du coup...
Tu parles de Calais, du coup, ça me permet un peu d'enchaîner, et d'une police aussi qui ne respecte pas ses propres règles de droit. C'est vrai que on a vu beaucoup d'images de violence, des destructions de campements, des expulsions de squats, la poursuite des migrants en temps de monter dans les camions avec des gaz lacrymogènes, etc. Pas mal de ratonnades. Ça fait parfois un peu penser à la guerre. On peut se poser à ce moment-là une question, un peu pourquoi utiliser de tels moyens, des moyens militaires quasiment, face à des migrants ayant fui pour la plupart des violences similaires un peu dans leur pays?
C'est une très bonne question.
Question peut-être un peu naïve.
Mais je crois que les dirigeants seraient vraiment mieux placés pour y répondre. Mais en tout cas, effectivement, il y a des dispositifs militaires qui sont mis en place pour bloquer les personnes exilées et surveiller les espaces géographiques des frontières. Et je pense que c'est très juste d'utiliser le terme de guerre. Alors après, peut-être ce qu'on peut plutôt se demander, c'est comment est-ce que cette guerre, elle peut se justifier? Et en fait, c'est notamment grâce à des amalgames entre migrants et terroristes, entre migration et narcotrafic, etc. Et c'est tous ces amalgames-là qui vont permettre de justifier finalement, ou en tout cas médiatiquement, la guerre. Alors on peut se demander, qu'est-ce que c'est que ces dispositifs militaires? On peut en tout cas les décomposer en plusieurs volets. Il y a le contrôle et la surveillance, à la fois des espaces et des personnes. Le harcèlement et les violences dont on vient d'entendre parler, qui font partie en fait d'une stratégie dite de dissuasion. Et puis il y a tout ce qui est stratégique et technologique, les stratégies de guerre et les technologies de guerre. Alors, je pourrais vous développer un petit peu ces dispositifs. Alors, la stratégie de dissuasion, c'est ce qu'on peut voir par exemple à Calais avec un harcèlement très violent, mais aussi ça se généralise à un racisme beaucoup plus quotidien avec des difficultés d'accès aux soins, des problèmes administratifs, des contrôles aux faciès, etc. Le fichage des personnes. Alors c'est le contrôle aux frontières et par exemple aussi le fichage dans les vols internationaux. C'est un fichage qui est fait à la fois par la police et à la fois par des entreprises privées comme les compagnies de transport. Et il y a un système européen de partage des données personnelles qui s'appelle le système d'information Schengen. C'est le système principal au niveau de l'Europe, mais les échanges de données, ils se font aussi avec des pays non européens. Un des autres dispositifs militaires, c'est l'arsenal militaire et les technologies de surveillance. Alors, il y a tout un tas de trucs. Hein. Des radars, des détecteurs de mouvement, des détecteurs sensoriels, des détecteurs sismiques, des caméras simples, des caméras infrarouges, des détecteurs de CO2, des détecteurs de battements de cœur, des scanners, des moyens de transport. Alors, il y a les hélicoptères, des avions, des zodiacs, des navires, il y a des 4x4, il y a des drones. Et ce dont on entend moins parler, c'est qu'il y a des satellites géostationnaires qui surveillent aussi les frontières. Alors, en fait, l'Europe, elle va consacrer un budget énorme à la recherche et aux nouvelles technologies, et qui sont notamment consacrées à la surveillance des frontières. Ensuite, un des autres dispositifs militaires, c'est ce dont on entend de plus en plus parler, qui est la fermeture des frontières avec des murs et des barrières grillagées. Et on en trouve de plus en plus tout autour de l'Europe. Il y en a, par exemple, dans les colonies espagnoles qui sont sur le territoire marocain, à Ceuta et à Melilla. Mais il y en a aussi en France, près de Calais, au niveau de la frontière franco-britannique, en Grèce, en Hongrie, etc. Et ces murs, ce qu'il faut vraiment rappeler et marteler, c'est que ces murs, ils n'empêchent pas les traversées. En fait, ils les rendent simplement beaucoup plus dangereux et beaucoup plus meurtrières. Donc finalement, les gens continuent de passer les frontières, mais beaucoup plus d'entre eux meurent en les passant. La question ensuite que j'ai envie de poser, c'est comment se coordonnent les États européens ?
Moi aussi.
Merci. Alors, c'est là dont on va parler de Frontex, l'agence européenne pour la gestion des frontières extérieures de l'Europe, c'est-à-dire les frontières du pourtour de l'Europe. Frontex, on en entend de plus en plus parler. C'est l'agence européenne qui a le plus gros budget, 176 millions d'euros en 2015. Alors, c'est quoi les objectifs de Frontex ? L'agence, elle a pour but de surveiller les frontières et d'espionner les stratégies des personnes en exil, de former des gardes et des policiers des États européens, mais aussi, grâce à une nouvelle réforme de décembre 2015, bientôt aussi de former des gardes des pays frontaliers à l'Europe. Elle a pour mission de mener des interventions militaires, de faire la passerelle avec l'industrie de l'armement, d'organiser des expulsions de sans-papiers. Alors, en gros, c'est des expulsions coordonnées. Elle va affréter un seul avion pour plusieurs États européens. Enfin, l'agence, elle permet la coordination entre les États européens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'elle va signer des accords avec d'autres États, qui sont des États non européens. Et ça va être des accords ou des échanges de données qui vont être signés sans aucun contrôle parlementaire. Du coup, ça, c'est aussi un truc assez choquant. Alors, cette agence est très critiquée. Pourquoi ? Ben clairement, parce que des agents de Frontex commettent et ont commis des violences et refoulent illégalement des personnes en exil, et qu'il n'y a aucune condamnation, tout simplement parce qu'il n'y a de toute manière pas de structure pour pouvoir condamner, juger ou surveiller Frontex et ses agissements. Et en plus, le fonctionnement de l'agence est carrément obscur, du coup, bon, ben, ça aide pas trop, quoi. Elle est, en tout cas, pour justifier l'existence de Frontex, il y a pas mal de médiatisation, comme quoi elle ferait du sauvetage en mer. C'est complètement faux. Le sauvetage en mer, ça fait absolument pas partie des missions de Frontex. Et quand elle fait des sauvetages en mer, c'est par obligation du droit international. Point à la ligne, en fait.
Ça veut dire qu'elle se retrouve à côté d'un bateau avec des gens dedans et elle a obligation
tout à fait.
De leur porter assistance.
Et elle le fait pas tout le temps.
Et elle le fait pas tout le temps, c'est ça. Mais c'est une des obligations. Ça serait une des obligations, en fait. Bon, oui, parce que, en fait, même si des fois il y a du sauvetage, il y a aussi beaucoup de personnes qui meurent aux frontières. Et alors, c'est important. Comment est-ce qu'on peut analyser ces chiffres ? Alors, on estime qu'en 20 ans, il y a plus de 22 000 personnes qui sont mortes en tentant de rejoindre l'Europe. C'est des chiffres qui sont très partiels, parce qu'il y a pas mal d'assos qui estiment qu'on peut les multiplier par 3 ou 4, ces chiffres-là. Du coup, vous multipliez 22 000 par 3 ou 4 sur 20 ans, c'est assez clair. Le nombre de personnes qui meurent, il est en constante augmentation, et c'est notamment parce que les traversées, elles sont de plus en plus dangereuses, et donc c'est notamment à cause de la militarisation des frontières, qui vont pousser des gens à prendre de plus en plus des risques.
Par Mais, exemple
ben, par exemple, ben, traverser des murs, c'est dangereux, prendre des chemins en mer qui sont plus dangereux parce que les chemins habituels sont trop surveillés, faire des traversées plus longues, essayer de fuir au moment où il y a au moment où des personnes elles sont visibles, elles essayent de fuir. Mais aussi, un des trucs qu'il faut vraiment souligner, c'est qu'il y a plein de témoignages qui racontent qu'il y a des gardes frontières qui ont coulé des bateaux de migrants.
Des gardes frontières, c'est ça,
j'ai ouais, dit. Des bateaux de gardes frontières ou des bateaux de Frontex. Mmh. En tournant autour, en faisant des vagues et les bateaux ils coulent, en crevant les bateaux, en contrôlant les gens et en les laissant en pleine mer, mais en leur ayant volé leurs rames et leurs moteurs. Où on a, il y a aussi des images qu'on peut voir sur internet avec carrément un Zodiac de garde frontière qui fonce sur un petit bateau gonflable, quoi. Qui fonce dessus, qui passe au-dessus, qui fait demi-tour et qui revient dessus. Et bon, ça, c'est jamais condamné, évidemment, c'est jamais jugé, c'est même. Enfin, c'est pas. Voilà, c'est oublié, quoi, invisibilisé complètement, mais c'est clair qu'il y a des assassinats. Enfin, c'est évident, quoi. Bon. Et après, c'est, ce qui est grave, c'est que du coup, à des moments, il y a de la médiatisation sur « il y a eu un naufrage, il y a eu 300 décès, nanana ». Mais en fait, ce qui est hyper grave, c'est que les réactions politiciennes, quand les médias font le relais des décès, en fait, c'est toujours d'augmenter la répression et la surveillance et de militariser encore plus les frontières. Et la seule conséquence qu'il peut y avoir à ça, c'est d'empirer la situation et d'augmenter le nombre de personnes qui prennent des risques et qui meurent, en fait. Mmh. Donc voilà. Après, bah, évidemment, ce qui va aussi faire penser à la guerre et ce qui montre aussi qu'on est en guerre, c'est bah, qu'en fait, les personnes qui meurent aux frontières, elles sont infériorisées. Leur vie, elle est vraiment considérée comme ayant aucune valeur. Et bah, par exemple, pour faire une comparaison, on voit le battage médiatique qui est fait pour le décès d'un militaire français en Afghanistan. On voit ce qui se passe et la manière dont c'est médiatisé le décès de 300 personnes migrantes qui essayent de, qui, en exil, qui essayent de traverser une frontière. Ben, en fait, c'est pas comparable, quoi. Des personnes, on va les oublier et puis on va dire que c'est de leur faute ou alors on va criminaliser des passeurs, etc. Et finalement...
On oublie les morts, quoi.
Oui, en tout cas, on va vraiment considérer que ces personnes, elles ont qu'une valeur. Enfin, elles sont complètement infériorisées. Voilà. Et peut-être je peux un peu conclure maintenant. Et un peu pour conclure, j'avais envie de citer une campagne qui s'appelle Frontexit, qui est une campagne qui a été lancée il y a 2 ans contre Frontex et qui a été initiée par le réseau Migre Europe. Et un peu, une de leurs phrases, c'est « L'Europe est en guerre contre un ennemi qu'elle s'invente ».
Super. Merci à toutes les quatre, bah, du coup, pour ces super éclairages. Merci aussi un peu pour la petite touche d'espoir à la fin, parce que ça montre aussi quand même qu'on peut lutter contre ces frontières et qu'on peut peut-être à un moment empêcher collectivement ce nombre de morts. C'est aussi notre responsabilité. Est-ce que je vous laisse un petit mot de la fin? Vous avez envie d'ajouter un petit quelque chose avant de... un petit morceau, quoi que ce soit, quelque chose que vous avez envie de passer?
Du coup, moi, j'avais sélectionné une musique, alors parce que elle fait partie de notre exposé, parce qu'on a aussi des parties musique, et elle conclut la partie dont je vous ai parlé sur la fabrication de la nation. Du coup, j'ai très envie de partager ça avec vous, et je vous propose d'écouter Nique la France de Zep.
Zep, zone d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance, on n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Parfois ministériel, les nazillons sont lâchés, les pitochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impériale.
socialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants, affligeantes. L'évolution en 60 ans, regarde à l'Assemblée, il y a que des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leur projet, quand tu cautionnes leur saloperie, leur loi, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes ils adorent le couscous et chèvre à l'aide, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohamed. Fais pas ton étonné, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rassons qui n'ont jamais enlevé leur costume de colon. Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souvenirs, dans votre histoire dont vous êtes si fiers, omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'elle était antiraciste. Tu nous as promis l'égalité, tu nous as fait miroiter rêver d'une France meilleure. Mais tu triches, tu récupères comme avec la marche des beurs. Manipulateur, tu cours après l'électeur, mais on t'a démasqué, toi et ton parti d'usurpateur. Et à nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques comme la connasse de Fourès. Tu propages, alimentes la haine du musulman, du banlieusard avec leur discours stigmatique. Leur discours arrogant, insultant et méprisant, omniprésente leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser baïonner, on va pas lâcher l'affaire comme Élie du LKP. C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
Donc, merci au groupe Confrontières pour ces explications très détaillées, très précises et qui sont précieuses parce que c'est l'envers du décor de la violence qu'on voit pas dans les médias habituellement. C'est justement l'objet de notre émission Micro-ondes de parler de ça. Et après cette note quand même extrêmement pessimiste, je vais vous faire une petite chronique plus locale qui sera guère plus rigolote. Hein.
Bon, bah, tant
je suis
pis,
désolé,
hein.
Je plombe l'ambiance en début d'année. On est là sur fond de encore d'état d'urgence et sur fond d'avancée du FN. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre ? 6 décembre.
Ouais, vas-y.
6 décembre, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ouais, vas-y, je sais plus là.
Tu sais plus, mais moi je me rappelle.
Si, moi aussi.
En tout cas, je l'ai marqué. Premier tour des élections régionales et encore une progression du Front National. Et ben le soir même, un local de distribution de nourriture des Restos du Cœur est tagué et saccagé à Grenoble. Mais je sais pas pourquoi. Je mets ces deux informations côte à côte. Hein. C'est renversant.
Oui, c'est ça. Je me casse la figure du siège.
9 décembre, à Grenoble, toujours, la police enfonce la porte d'un appartement où l'association La Relève hébergeait une famille étrangère. Les policiers menottent le père de famille, fouillent toute la maison, prennent des photos, y compris de la famille, ne trouvent rien et déclarent en partant qu'ils reviendront. Il s'agissait d'une perquisition, entre guillemets, administrative, c'est-à-dire autorisée par l'état d'urgence qu'on nous promet pour longtemps. On a RESF, donc Réseau Éducation Sans Frontières, qui soutient la famille. On essaie quand même de réagir tous contre tous ces débordements policiers. 16 décembre, à Paris, rafle dans le foyer Marc Séguin, Paris 18e. Concrètement, il s'agit d'une chasse aux sans-papiers qui passe par la casse de leur lieu de vie, selon un communiqué de droit devant de l'UDCGT 75 et du collectif pour l'avenir des foyers et bien d'autres organisations. Ces organisations qui organisent, si j'ose dire, le 9 janvier prochain, donc une manifestation de soutien à ce foyer Marc Séguin. Mi-décembre également, l'état d'urgence est une fois de plus détourné pour durcir la chasse aux sans-papiers dans toute la France, avec une mention très spéciale au préfet de Mayotte pour sa brutalité contre les sans-papiers. 23 décembre, 200 personnes de différents pays, sans logement, sans papiers, tentent symboliquement de s'installer avec des tentes, place de la République à Paris, pour protester contre leur situation et la faire connaître. Une manif de soutien est aussi organisée et les policiers chargent. 29 décembre, à Grenoble, on en a parlé en début d'émission, eh bien, un incendie a lieu dans des baraques occupées par des Roumains à Grenoble. Et suite à cet incendie, les personnes se trouvent en encore plus grande précarité puisqu'elles sont relogées que provisoirement par les autorités. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Ils ont été deux nuits en gymnase, quelques nuits à l'hôtel et puis après on ne sait pas. Voilà, donc... Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, et pourtant c'est vraiment typique de ce qui se passe avec l'état d'urgence actuellement. C'est pas tout dans le cadre strict de l'état d'urgence, mais c'est une ambiance qu'on voit, Front National, état d'urgence, sécurité. Si, je vais quand même vous parler d'un maire assez connu dans l'Isère, qui s'appelle Gérard Desante. Je ne crois même pas qu'il est au Front National, il devrait y être, mais bon, je crois qu'il est encore chez les Républicains. Il est maire de Charvieux-Savagneux et il a fait voter à son conseil municipal une délibération pour réserver l'accueil des réfugiés sur sa commune aux seuls réfugiés chrétiens. Et donc, il y a eu le préfet qui a demandé au tribunal administratif de faire annuler la délibération, ce qu'il a fait en référé, et maintenant... Monsieur Desante attend un jugement sur le fond du tribunal administratif de Grenoble pour voir si on pouvait héberger dans une ville que des chrétiens. Mm-hmm. Donc voilà, c'est une certaine idée de la laïcité en France. On pourrait passer maintenant sur les simplement... Ben, il y a aussi, non, il faut quand même qu'on dise, il n'y a pas que de la répression, il y a aussi des réactions. À Grenoble, on a eu récemment deux manifestations de protestation contre l'état d'urgence le 5 et le 15 décembre. Voilà, et dans les deux cas ça a réuni plusieurs centaines de personnes. Seulement, comme pour bien montrer à quoi sert l'état d'urgence, lors de la manifestation du 15 décembre, alors qu'elle était hyper calme, eh bien la police est rentrée dans la manifestation pour choper trois personnes. Elle en a gardé deux en garde à vue, ce sont deux syndicalistes de Sud Solidaire, et elle engage des poursuites contre eux, hein, pour participation à manif interdite, parce que vous savez qu'on a grosso modo plus le droit de manifester, visage masqué, alors il a mis un foulard, ils n'avaient pas envie d'être pris en photo, mais bon, visage masqué, ça aggrave leur cas, et surtout, ils avaient un opinel, donc il y avait manifestation, visage masqué, port d'armes. Et je peux vous dire que là, avec ça, ils sont habillés pour l'hiver, y compris dans les médias. C'est gravissime, c'est la chasse aux terroristes qui continue. En France, il y a déjà eu, on le rappelle, 3000 interpellations environ, souvent réalisées très brutalement et qui visent le plus souvent des sans-papiers, des supposés musulmans et des militants associatifs. Il y a également environ 400 assignations à résidence, avec l'obligation de pointer donc au commissariat 3 fois par jour. Et donc, inutile de vous dire que c'est une atteinte aux libertés qui a été portée devant le Conseil constitutionnel dans le cadre de ce qu'on appelle les CPC, les QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité. Eh bien, les sages, les conseillers du Conseil constitutionnel, dans leur grande sagesse, ont estimé qu'il n'y avait rien à critiquer à ce truc-là. Ben, je suppose que ces sages doivent s'estimer pour l'instant à l'abri de ce genre de désagréments, hein. On verra la suite. Bon, en fait, il y a des très nombreuses protestations dans la France entière, insuffisantes à nos yeux, bien sûr, contre l'état d'urgence, et surtout son projet de de constitutionnalisation, avec une possible déchéance de nationalité dont on parle actuellement. Il y a même jusqu'à Jacques Toubon, hein, ancien élu de droite, ancien ministre, etc., qui est actuellement défenseur des droits et puis qui est vent debout contre ce truc-là. On va peut-être pouvoir passer
à l'agenda.
Ah, oui. Qu'est-ce que tu voulais dire, peut-être?
Ah non, du coup, l'agenda est bien,
et puis
c'est bien.
Je crois qu'on
bonne
a
idée.
Plusieurs choses à dire pour ce qui va se passer en janvier.
Bah, après les mauvaises nouvelles, il faut se donner de la motivation et partir sur des rendez-vous. On espère d'ailleurs que, n'hésitez pas à nous renvoyer des informations s'il y a des événements, des choses importantes que vous avez envie de diffuser, on les mettra dans l'agenda.
Oui, d'autant plus qu'on ne vous a pas entendu, hein, les auditeurs.
Oui,
normalement, vous deviez nous appeler.
Je le rappelle au cas où, 04 56 14 23 54, appelez, il y a encore le temps.
Ou alors peut-être qu'on n'a pas d'auditeur.
Peut-être qu'on n'a pas d'auditeur.
À savoir quand même sur Facebook, ça réagit.
Très bien, bah, la prochaine fois on prendra le temps.
Tu nous diras ce qu'ils disent. Hein.
Voilà. On a un événement qui viendra se rajouter, j'en parlerai bientôt.
Ah super, bon bah du coup partons sur l'agenda et pour nous redonner un petit peu la pêche là et se mettre un petit peu en lutte et en résistance, un petit peu beaucoup même, parce qu'il en faut beaucoup. Le 8 janvier prochain à 19h à la Bifurque, un événement sur la question du droit au retour avec BDS, boycott, investissement, sanctions. C'est une exposition de photos prise dans le camp de réfugiés palestiniens, je vais mal le prononcer, désolé, Haïm El Alore. Voilà, ça se passait au Liban. Et donc il y aura un débat avec le photographe et tout ça. Voilà,
et un coordinateur de boycott des investissements sanctions et un réfugié palestinien aussi.
Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le 8 janvier 19h à la Bifurque.
On continue sur l'agenda peut-être avec nos invités, non, Confrontières. J'ai cru comprendre en début de partie que vous attaquiez une tournée. Vous pouvez nous en dire plus?
Oui, tout à fait. Alors on va faire une tournée la semaine prochaine. Alors c'est pas du tout c'est pas très près de Grenoble. Vendredi 8 janvier, nous serons à Lausanne à 17h. Non, à 18h. À 18h, pardon. Samedi 9, nous serons à Genève à 17h.
Et où?
Alors, oui.
Les lieux.
Pardon, à Lausanne, à 18h le 8, ce sera à l'espace autogéré. À Genève, le 9, à l'usine, à 17h, et à Thonon-les-Bains, je ne sais plus le nom, dans un local associatif, à 16h et 10, enfin, à partir de 16h, le dimanche 10.
Et ça, c'est pour la conférence en entier, hein.
Voilà, c'est une conférence qui dure un peu plus de 2h.
Ok.
Et puis, alors, le 16 janvier, très important, parce que tous les ans, il y a une manifestation au sens culturel, on va dire, et politique, à Voiron, organisé par Ralph Ron, à la salle des fêtes, donc le samedi 16 janvier dès 15h. Alors, il y a d'une part des stands associatifs, il y a toujours une trentaine d'associations, c'est très intéressant du point de vue des échanges. À 17h, un débat sur les migrants et le mythe de l'envahissement avec Nicolas Bancel, puis un buffet, généralement c'est quelque chose de bon, souvent une chorba qui est très bien préparée. 20h.
Mm-hmm. On va venir pour la chorba.
20h, ben déjà ça, oui. 20h sur les musulmans ou assignés, le racisme au quotidien, un débat avec Isman Soudère et Raphaël Liogé. Voilà. Et donc, c'est toujours, en principe, très intéressant, ces journées de Ralfon, à la salle des fêtes. Donc, voilà. On avait une autre chose à l'agenda, je crois.
Oui, le 21 janvier, l'ODENOR. Donc, l'ODENOR, c'est l'Observatoire des non-recours aux droits et services. Donc, l'ODENOR organise un atelier de partage de pratiques sur la question « Accéder à ses droits quand on vit en bidonville, utopie ou réalité ». Cette rencontre aura donc lieu le 21 janvier de 12h à 14h à la Maison des habitants du Vieux Temple à Grenoble.
Et donc, on vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission, ce sera déjà la quatrième, on commence à être presque des pros.
Yvon, je me permets de te couper pour deux petites infos. Bon, d'abord, les petits retours sur le Facebook, il y a super émission, il y a Jeanne, on est sur fan de toi.
Donc, on est deux Jeanne, donc c'est super, on va partager les fleurs, c'est cool.
Ça tombe bien, il y a deux personnes qui l'ont dit, donc chacune une sur fan de...
Bon, alors déjà, on a un auditeur ou une auditrice. Hein.
Mais apparemment, en tout cas, et pour compléter du coup ça, le petit agenda, voilà, juste... dans le cadre de la grosse semaine de l'orage, qui est donc une semaine d'éducation populaire, jour de l'ODENOR, donc c'était le 16 janvier, le 21 janvier, pardon, il y aura donc une conférence avec Pinar Selek, une militante turque, féministe et antimilitariste, qui viendra nous parler de la convergence des luttes. Et puis, un dernier événement qui est aussi arrivé sur le Facebook et qu'on va relayer, c'est la projection du film « Et nous jetterons la mer derrière nous », qui est donc un film qui a été réalisé en Turquie et qui justement parle des trajets des personnes migrantes qui tentent de traverser en Europe. Cette projection aura donc lieu le 6 février. Le lieu est à confirmer, ce sera soit au 102, soit à la BAF. En tout cas, c'est une date à ne pas oublier, donc le 6 février pour terminer l'agenda.
Et donc, justement, à notre prochaine émission, on compte inviter la réalisatrice et peut-être plusieurs participants de ce film. Hein, et nous jetterons la mer derrière vous.
Oh, ok.
Et donc, alors, simplement pour finir, on annonce la prochaine émission qui aura lieu le premier dimanche de février, de midi à 14h, comme aujourd'hui. Et on a pressenti au moins deux sujets qui seraient l'un sur les Roms avec probablement des interviews et probablement aussi un topo sur toutes les interventions diverses de Éric Fassin qui est venu à l'IEP il y a quelques semaines en décembre. Éric Fassin qui est un sociologue qu'on aime bien et qui a des analyses qu'on apprécie sur les migrants. Qui a également écrit un livre qui s'appelle « Rome et riverains », dont on vous parlera également. Et puis le deuxième sujet, on vient de vous en parler, hein, c'est pour présenter le film sur « Et nous jetterons la mer derrière vous ». Ce soir, on aura, il ne faut pas rater non plus,
sur News FM.
Sur News FM de Mohamed, qui s'appelle «
Les nuits du bled »
à 19h. Eh bien, merci de nous avoir écoutés.
Merci aussi à nos invités, donc les militantes de Confrontières. Un grand merci.
Et on va passer à HK.
Un peu de musique, ouais.
HK, ça s'appelle comment le titre
Citoyen du monde.
Oublié, citoyen du monde, voilà.
À dimanche, dans un mois.
À dimanche, dans un mois.
Pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Fallait crever de faim ici tous ensemble. Soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo.
partisans d'un monde sans frontières. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh, yo. Sur cette terre, tellement facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices. Plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour eux. Combien au chaud la victoire était fêtée au champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières.